Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1, c'est parti, comme chaque jour pour 2 heures d'infos, d'analyse, de débat. C'est votre grand journal du soir. Dans un instant, toute l'information du jour avec vous, Sébastien Krebs, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, le manque de moyens dans l'hôpital, encore si j'ose dire, des centaines de chefs de service démissionnent, en tout cas administrativement. Dans 20 minutes, je recevrai un professeur de médecine en colère, certes, mais qui, lui, trouve décalé et dangereux même de poser sa démission. Il nous expliquera pourquoi. 18h30, les grandes voix dans ce studio. Ce soir, les violences policières, mais aussi la guerre à distance entre deux papes, l'ancien pape Benoît XVI et le nouveau François. Et puis à 19h30, on parlera de cybercrime dans notre quotidien. Qui sont ces criminels du net, piratage de données, escroquerie? Nous sommes tous concernés et il y a des clés pour s'en défendre. C'est l'info qu'il vous faut et on est très heureux que vous soyez de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur Europe 1. 428 000 auditeurs de plus. On continue de vous informer avec le sourire, avec plaisir et sérieux. C'est votre grand journal du soir. On s'élance jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
On attend vraiment qu'Agnès Buzyn se ressaisisse. Elle est elle-même médecin hospitalier, elle connaît la situation et c'est une grande tristesse de devoir alerter nos gouvernants en effectuant ce geste.
Le nouveau coup de semonce des praticiens hospitaliers, ils sont des milliers à avoir remis aujourd'hui leur démission. Ils n'effectueront plus aucune tâche administrative.
Les conséquences, on les voit à 18h20. Emmanuel Macron forcé de revenir en première ligne sur les retraites rattrapées par des manifestants, c'était à Pau.
Ne me donnez pas de leçons de respect, je vous en prie, vous appliquez les à vous-même.
Pour se faire un pas,
d'accord.
Voilà, échange animé avec un enseignant. Le président estime les inquiétudes légitimes.
Ségolène Royal va-t-elle devoir abandonner les pôles face aux critiques sur son implication? Le Quai d'Orsay envisage de mettre fin à ses fonctions d'ambassadrice.
Dans l'actualité aussi, la grande pagaille des nouveaux PV. Le défenseur des droits dénonce un système inefficace et injuste.
L'ancien pape Benoît XVI prend ses distances avec le livre sur le célibat des prêtres.
Et puis Danny Boone en ouverture du festival de la comédie de l'Alpe d'Huez.
Toute l'histoire, tout le film, on ne sait pas si je suis vraiment agent secret ou si je suis complètement fou.
Il est à l'affiche du Lion, Danny Boone, dans un duo déjanté avec Philippe Catherine, ça promet. Premiers extraits à suivre à la fin du journal. La Bourse de Paris stable à 6040 points.
Anissa, la couleur du ciel, bonsoir à vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Alors demain, une nouvelle perturbation arrive par l'ouest avec au programme de la pluie et beaucoup de vent. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
C'est un mouvement qui dure depuis des mois maintenant, mais une grève à l'hôpital public qui reste sans effet concret ou presque, les soignants continuant bien sûr d'accueillir les patients. Un millier de médecins, dont 600 chefs de service, ont donc passé une étape de plus aujourd'hui pour réclamer à la ministre de la Santé plus de moyens. Il démissionne. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
Une démission pour marquer les esprits avec un effet immédiat. Ils arrêtent toutes les tâches administratives.
Oui, les absences, les congés, les jours de garde, toute cette gestion est laissée à la hiérarchie. Fini les réunions sur le financement de l'hôpital, les discussions avec leur direction ou l'agence régionale de santé. Les chefs de service gardent leur blouse de médecin, mais quittent celle de médiateur. Une décision difficile mais nécessaire, selon Xavier Mariette, le chef du service rhumatologie à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.
On attend vraiment qu'Agnès Buzyn se ressaisisse. Elle est elle-même médecin hospitalier, elle connaît la situation. Elle doit absolument maintenant relever la tête et résister aux injonctions de Bercy. Et c'est une grande tristesse aujourd'hui, une grande émotion de devoir alerter nos gouvernants en effectuant ce geste.
Tous ces médecins dénoncent le manque de moyens, de matériel, partout en France et dans tous les services. Démissionner aujourd'hui, c'est une manière pour Antoinette Perla, chef de médecine interne au CHU de Rennes, de sauver l'hôpital public.
Il y a un manque de lits, notamment en pédiatrie. On a eu des enfants qui ont été hospitalisés en gynécologie faute de lits. Quand on va voir les familles, qu'on passe une heure à expliquer un diagnostic difficile, qu'on se réunit avec des collègues pour parler des cas difficiles pendant une heure, ben tout ça, c'est pas pris en compte. C'est comme si on ne travaillait pas. Et je crois que là, vraiment, on est arrivé à un point de rupture.
Un point de rupture sur le salaire des infirmières, notamment le 28e sur 32 pays de l'OCDE, selon ces médecins. Résultat, ces soignants sont de plus en plus nombreux à quitter l'hôpital public et ne sont, disent ces médecins, presque jamais remplacés.
Les précisions de Pauline Jacquot, merci.
18h20 à 18h20, je recevrai le chef du service urologie de l'hôpital Cochin, le professeur Perromort. Même s'il est très conscient que l'hôpital va mal, il n'a pas démissionné, lui, et il nous dira pourquoi.
Le contexte social toujours marqué par le mouvement contre la réforme des retraites, 41e journée de mobilisation aujourd'hui avec des manifestations un peu partout en France, plusieurs centaines de personnes à Paris, 5000 manifestants à Marseille selon les autorités, 2000 à Bordeaux, 1 millier à Lille, 5 fois plus dit la CGT.
Mobilisation en forte baisse chez les enseignants, 4% en grève, 6% des agents de la SNCF. Demain, 80% des TGV, TER circuleront et les trois quarts des Transiliens.
Et puis il y a eu ces coupures de courant à Besançon, action de la CGT Énergie. Les agents ont coupé l'électricité à près de 7000 foyers pendant 2 heures et ont basculé 30 000 compteurs au tarif heure creuse.
Le conflit qui a rattrapé Emmanuel Macron, toujours en déplacement à Pau aujourd'hui.
Ouais, jusque-là, il laissait le Premier ministre seul au front. Cette fois, Emmanuel Macron a pris la parole. Adrien Beck, après avoir été interpellé par des manifestants lors d'un déplacement qui était initialement prévu sur l'écologie.
Oui, les quelques dizaines d'avocats en robe noire devant l'hôtel de ville ce matin n'étaient pas là pour le bus à hydrogène de Pau, mais bien pour parler retraite. Alors eux n'ont pas vu Emmanuel Macron, contrairement à ce prof de maths croisé ensuite par le chef de l'État à son arrivée lors d'une table ronde sur l'écologie. Échange tendu avec l'enseignant qui lui reproche notamment la légion d'honneur du patron de gestionnaire d'actifs, BlackRock.
Ne me donnez pas de leçon de respect, je vous en prie, vous appliquez-les à vous-même.
Pour se faire entendre.
D'accord. La réforme de retraite, c'est un cadeau. Tous ces gens-là,
parce que les gens sont obligés de cotiser à côté. Mais si, bien sûr,
mais c'est fou.
Un dialogue de sourds et pourtant Emmanuel Macron qui s'était tenu éloigné du dossier retraite essaie maintenant de s'en extraire. Il faut avancer, fait-il comprendre peu après.
Maintenant on doit rentrer dans une phase d'explication et de construction d'un compromis. L'explication parce qu'il faut que chacune et chacun comprenne ce que cette réforme veut dire pour lui. Donc il faut qu'on en finalise les paramètres, il y a des discussions qui se poursuivent et il y a un texte de loi qui sera présenté en Conseil des ministres. Le 24 janvier prochain.
Et pour ceux qui restent en grève, Emmanuel Macron se montre presque fataliste à rebours de son gouvernement qui appelle à la fin du mouvement. On ne lèvera pas, dit-il, le mécontentement de ceux qui protègent des catégories particulières.
Adrien Beck en ligne de Pau pour Europe 1.
Côté politique toujours, Jean-Luc Mélenchon dit vouloir déposer une motion de censure à l'Assemblée contre le gouvernement. Le nouveau projet de loi, désormais expurgé de l'âge pivot, prévoit que l'exécutif pourra ensuite décider par ordonnance de toute mesure permettant d'atteindre l'équilibre financier, y compris donc l'âge de la retraite.
La politique, c'est aussi Ségolène Royal. Cette fois, elle est poussée vers la sortie. Elle pourrait même perdre son poste d'ambassadrice des pôles.
Jean-Rémy Baudot, bonsoir.
Bonsoir Sébastien. Bonsoir
On la savait très critiquée pour son manque apparent d'implication. Ségolène Royal vient de recevoir un courrier.
Et c'est un courrier co-signé par les ministères des Affaires étrangères et de la Transition écologique qui commence ainsi. Il est envisagé de mettre fin à vos fonctions au regard de vos récentes prises de parole publiques. Ce courrier, c'est Ségolène Royal qui le met en ligne ce soir sur Facebook pour confirmer des informations du Canard Enchaîné. Le courrier lui rappelle qu'en tant qu'ambassadrice, elle est tenue à un devoir de réserve. C'est un détail dont elle s'est largement affranchie ces derniers mois, critiquant ouvertement le gouvernement sur l'hôpital, les retraites, le glyphosate, les violences policières, etc., etc. C'est assez difficile de faire une liste exhaustive. Dans sa réponse ce soir, Ségolène Royal explique ne pas vouloir renoncer à sa liberté d'opinion et d'expression. Elle dit que cette liberté elle lui est garantie par la Constitution. Mais ça fait quand même un moment qu'elle agace en haut lieu. À un moment, il faut sévir. Elle balance beaucoup trop. Elle l'a bien cherché, explique ce soir un membre de l'équipe gouvernementale. Ségolène Royal, que certains disent en campagne, mais à quoi ? On se souvient qu'elle avait tenté de revenir pour les européennes. Alors a-t-elle des velléités, peut-être présidentielles ? Le feuilleton est loin d'être terminé.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Europe 1, il est 18h07, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Deux informations sur le front de l'emploi et d'abord ce tout premier plan social de l'histoire du groupe Auchan.
517 postes vont être supprimés. Le groupe annonce un plan de départ volontaire lié à une réorganisation qui ne concernera que les sièges sociaux sur fond de pertes importantes dans les hypermarchés. Et puis la deuxième information est une bonne nouvelle cette fois. Toyota va créer 400 nouveaux emplois en CDI dans son usine d'Onin près de Valence pour assembler un nouveau modèle de SUV.
On en parlera d'ailleurs à 19h20 dans Demain en France, votre rendez-vous quotidien. Il est accusé d'attouchements répétés sur l'actrice Adèle Haenel. Le réalisateur Christophe Ruggia a été placé en garde à vue aujourd'hui. Les faits remontent à l'époque où l'actrice tournait son premier film. Elle n'avait que 13 ans.
Les cas de violences policières, toujours dans le viseur. Cette fois, c'est le président de la République qui a dénoncé aujourd'hui des comportements qui ne sont pas acceptables. Au moment où Christophe Castaner recevait la famille de Cédric Chauviat, ce livreur mort à Paris au moment de son interpellation.
Ses parents qui réclament d'ailleurs toujours la suspension des policiers incriminés. Ils sont 4, ils sont ressortis sans réponse. Ils réclament même un procès aux assises.
J'ai trouvé un père de famille, un homme qui m'a parlé, qui a répondu à nos questions. Ça s'est bien passé, mais on n'a pas de réponse concrète. S'il y a une nouvelle arrestation, ça sera toujours avec le même combat. Quoi. Parce que moi j'appelle ça un combat, c'est plus des arrestations, c'est des combats, quoi.
Hein, tout ministre qu'il est, M. Castaner, on sait très bien qu'il a les mains liées par tous les syndicats de police et que lui, personnellement, il ne pourra rien faire. Donc on attend la justice. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, j'espère qu'ils seront jugés aux assises. Moi, je n'attends que ça. Je n'arrêterai pas tant qu'ils ne seront pas aux assises.
Un propos recueilli par Victor Dolande pour Europe 1.
On poursuit évidemment avec ce débat au 39-21 dès 18h30, nos grandes voix sur les violences policières. On regardera tous les événements de ces derniers jours, hein, notamment.
En chiffres, la population française dépasse désormais les 67 millions d'habitants, recensement de l'INSEE au 1er janvier. La population qui grossit de 0,3%, mais avec moins de bébés, même si la baisse de la natalité ralentit. Détail à suivre dans le journal de 19h.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
La pagaille des nouveaux PV de stationnement, système kafkaïen et inefficace, au point que le défenseur des droits sont saisis. On vous explique dans la suite de votre édition de 18h.
Et puis, micmac à Rome, l'ancien pape Benoît XVI prend ses distances avec le livre sur le célibat des prêtres.
Votre grand journal du soir, c'est toute l'info qu'il vous faut tous les jours sur Europe 1 jusqu'à 20h. 18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
C'est la pagaille pour se garer et payer son stationnement. Rapport accablant sur le nouveau système des PV, les fameux forfaits post-stationnement décidés par les communes.
70% des amendes ne sont jamais recouvrées par l'État. 1 milliard d'euros de perdus. Aude Leroy, bonsoir.
Bonsoir.
Le défenseur des droits s'est saisi du sujet. Il dénonce un système kafkaïen.
Oui, alors par exemple, impossible de payer son stationnement en monnaie ou alors il faut payer le forfait post-stationnement avant de pouvoir le contester. Alors c'est tout ça que, notamment, le défenseur des droits dénonce dans son rapport. Il y a aussi, par exemple, la réclamation qui se perd dans les méandres de l'administration. Alors du coup, des personnes, parfois en difficulté financière et dont la voiture a été, par exemple, volée, se retrouvent à payer des sommes astronomiques. Inégalité flagrante, tacle le défenseur des droits, qui juge donc le fonctionnement illisible et inefficace. Le système doit revenir à de la simplicité et du bon sens, affirme Jacques Toubon.
Ce qui a coincé, c'est que je pense qu'on a remplacé un système intelligent par un système purement technocratique, et notamment on y a introduit, bien entendu, une dose très importante de dématérialisation, une dose très importante d'électronique. On a introduit naturellement des complications ou des impossibilités, même pour beaucoup de personnes.
Et le défenseur des droits plaide aussi, par exemple, pour une meilleure gestion des personnes à mobilité réduite qui ont, elles, le stationnement gratuit. Mais il n'empêche, elles reçoivent aussi des amendes à payer. À Paris, par exemple, elles représentent 10% des contestations des PV.
Aude Leroy, merci.
On en vient à ce micmac au Vatican. On va reparler dans les grandes voies, d'ailleurs, avec la réapparition de l'ancien pape, désormais pape émérite, Benoît XVI.
Un livre qui fait grand bruit doit paraître demain chez Fayard. Un plaidoyer pour défendre le célibat des prêtres et dont Benoît XVI est présenté comme le co-auteur avec un cardinal, Robert Sarra. Blandine Huguenet, on vous retrouve à Rome. Nouvel épisode aujourd'hui, après de vives réactions. Benoît XVI prend ses distances, il demande à ne pas apparaître comme co-auteur.
Oui, c'est le secrétaire personnel du pape émérite qui le fait savoir, c'est un malentendu. Benoît XVI n'a jamais donné son accord pour que sa signature apparaisse comme auteur de cet ouvrage qui dénonce ouvertement l'ordination des hommes mariés. Le coupable désigné par les défenseurs de l'ancien pontife de 92 ans, c'est le cardinal Sarra, une figure de l'aile ultra-conservatrice du Vatican qui s'oppose régulièrement au pape François. Et c'est lui qui est à l'origine de cet ouvrage qu'il a d'abord présenté comme co-signé par Joseph Ratzinger. Il était au courant que ses propos seraient publiés, se défend le cardinal. D'ailleurs, le terme de collaboration avec Benoît XVI apparaîtrait tout de même sur cette couverture. Et même si le pontife allemand, à la retraite depuis 7 ans, veut finalement se faire discret, le long passage écrit de sa main restera bien en ouverture du livre. Passage où il défend fermement le célibat des prêtres catholiques, alors que son successeur François doit rendre sa décision sur l'ordination d'hommes mariés dans les prochaines semaines.
Le récit de Blandine Huguenet depuis Rome pour Europe.
On va terminer avec du cinéma, Sébastien, direction même les pentes enneigées de l'Alpe d'Huez.
Au Festival de la Comédie qui s'ouvre avec José Garcia comme président du jury. Et sur le tapis rouge en ouverture ce soir, Danny Boone et Philippe Catherine. Ils présentent Le Lion, duo détonnant. Mathieu Charrier l'a vu en avant-première.
Léo Milan, nom de code Le Lion.
Léo Milan n'existe pas.
C'est ma couverture.
Sa couverture, car le lion, incarné par Danny Boone, prétend être un agent secret. Évidemment, personne ne le croit.
Le mec se prend pour James Bond.
sauf son psy, joué par Philippe Catherine. Alors quand sa femme se fait capturer par d'étranges individus qui portent des masques de singe, Catherine va libérer le lion.
Il vient me chercher, il me sort de l'hôpital parce que je lui dis je peux la retrouver très très vite parce que sans moi tu peux que prier.
Et c'est parti pour 1h30 de road trip, d'action, d'humour. On est parfois dans le burlesque et on pense à Pierre Richard et Depardieu dans La Chèvre, avec toujours ce principe du dominant et du dominé. En l'occurrence, c'est Philippe Catherine qui se fait un peu maltraiter.
Arrêtez à la fin ! Règle numéro 2, ferme ta bouche, t'auras chaud aux dents.
Et si l'on accepte de se prendre au jeu, il y a aussi du suspense parce qu'on doute jusqu'au bout de la véritable identité du lion.
Toute l'histoire, tout le film, on ne sait pas si je suis vraiment agent secret ou si je suis complètement fou. Quoi.
Dans la deuxième partie du film, Philippe Catherine vole même la vedette à la star de la comédie, Danny Boone, un duo qui fonctionne tellement que l'on devrait le revoir sur grand écran. Au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, Mathieu Charrier, Europe 1.
Rendez-vous, vous êtes cernés !
Voilà, le lion avec Danny Boone et Philippe Catherine, ça sort le 29 janvier en salle.
Tout en sympathie, voire en folie. Merci beaucoup Sébastien Crêpe, vous revenez avec de nouvelles infos à 19h à 18h30. De la pluie demain, Anissa.
Oui, effectivement, Nathalie, avec une nouvelle perturbation qui arrive demain. Alors si vous nous écoutez en Bretagne et dans le Cotentin, bah, vous serez les premiers servis demain avec cette nouvelle perturbation qui vous apporte de la pluie et surtout du vent du sud soutenu sur quasiment tout le pays. Demain, dans la journée, cette perturbation va circuler. Elle va se diriger vers l'est. Sur l'ouest, la Normandie et la Bretagne, et bien là, les éclaircies seront de retour dans l'après-midi. Et demain après-midi, c'est le Poitou-Charentes, les Ardennes, la région parisienne qui seront touchées donc, par cette perturbation. Là aussi, pour vous, ça sera de l'eau demain après-midi et du vent du sud jusqu'à 60 km/h, même dans les terres. Sur la façade atlantique, le long de la Manche et à l'est, en Alsace, hein, dans les terres, bien là, le vent du sud souffle jusqu'à 80 km/h. Dans le sud-est, c'est le vent d'automne qui se lève. Et puis, au bord de la Méditerranée, quelques ondées locales sont possibles. Donc, n'oubliez pas votre parapluie demain si vous habitez dans le sud. Sur le reste du pays, c'est des éclaircies, à peu près pour toute la France. Les températures, elles sont douces. 0 à 9 degrés demain matin. Nous aurons 0 à Belfort, 2 à Perpignan, 8 à Paris. Dans l'après-midi, il fera doux, 9 à 16.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec votre invitée Nathalie Lévy dans un instant.
Le malaise à l'hôpital, toujours et encore plusieurs centaines de chefs de service ont démissionné de leur fonction d'encadrement. Aujourd'hui, ce malaise, le professeur Perromort étant bien sûr conscient, mais lui n'a pas choisi de démissionner. Il nous explique ses raisons dans deux minutes.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, ils sont plus de 1000 chefs de service à avoir démissionné aujourd'hui de leur fonction administrative pour sauver l'hôpital public. Votre invité ce soir est chef du service urologie de l'hôpital Cochin à Paris. Pour lui, l'hôpital va très mal, mais il refuse de démissionner. Vous recevez le professeur Michael Perromort.
Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Merci d'être dans ce studio ce soir. Alors voilà, ils sont plus de 1000, désormais vos collègues, plus de 1000 médecins à travers toute la France à avoir cessé effectivement, avoir jeté l'éponge, démissionné de leur fonction administrative, est-ce qu'ils ont raison de dire stop ?
Écoutez, malgré toute la solidarité que je leur dois et la confraternité, je pense que sur ce coup-là, ils ont tort.
Pourquoi donc ?
À mon avis, d'abord, ça n'est pas faisable. Techniquement, ça n'est pas tenable de démissionner uniquement des tâches administratives parce qu'on ne peut pas si facilement dissocier les soins du quotidien de l'administration. Et en plus, ça risque d'être totalement contre-productif et d'aggraver la situation dans les services.
Alors, je comprends pas bien. Pas tenable, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs choses. Normalement, ils s'occupent quoi ? Des absences, des jours de garde, des jours de congé, etc. C'est ça ?
Oui.
Ça n'entache en rien leur travail auprès des patients, a priori.
Bien sûr, mais il y a plein d'autres fonctions. Je vais vous donner un exemple très concret. On est en ce moment à l'hôpital Cochin, comme dans les autres hôpitaux de l'assistance publique, en train de faire le recensement des équipements pour les services. C'est très important, notamment en chirurgie. Et donc, les équipes chirurgicales demandent le matériel nécessaire pour fonctionner et font remonter à l'administration. Il n'est pas possible de ne pas exécuter cette tâche, sans quoi les services n'auront plus d'équipement.
D'accord. Donc, pour vous, les deux sont extrêmement liés. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui en tout cas, il n'y a plus de prise de décision donc, sur la gestion, ce qu'on évoquait, les jours de garde, etc., y compris sur le matériel. En tant que chef de service, ça va devenir collectif, là, dans les prochains jours, de ce fait ?
Je ne pense pas, parce que dans la vraie vie, il faut toujours quelqu'un qui décide. Et puis, les équipes ont l'habitude
qui décidera,
tourner vers quelqu'un. À mon avis, en off, dans les coulisses, ce sera la même personne qui décidera, sauf qu'elle ne se révélera pas aux yeux de l'administration. D'accord. Ça va être très compliqué, très brouillé.
Donc c'est symbolique, on l'a compris, mais oui. C'est quand même pour marquer les esprits, vous les comprenez. C'est plus de 1000 médecins à travers la France qui tapent du poing sur la table aujourd'hui. Il y a une impatience, elle est là.
Bien sûr, je les comprends, je les soutiens. Je partage le même constat de la dégradation de l'hôpital public. Et croyez-moi, s'il faut le dire dans les médias, je n'hésite pas à le faire. Mmh. Simplement, je trouve que la méthode utilisée aujourd'hui n'est pas la bonne, c'est tout.
Sauf que s'il n'y a pas d'ultimatum, s'il n'y a pas de point de rupture, s'il n'y a pas de point tapé sur la table, quel est l'autre levier pour obtenir vite des revalorisations qui sont demandées depuis des mois pour les petits salaires, des réouvertures de lits ?
Il y a deux actions qui pourraient avoir un impact important. C'est la grève des soins à laquelle on refuse, évidemment.
Oui, mais on a déjà un petit peu connu, en tout cas, des perturbations.
On a fait une journée de grève, mais tout en assurant les urgences. Et finalement, c'est resté relativement indolore. Je pense que les médecins n'ont pas dans leur ADN cette aptitude à mettre en péril les patients.
Donc la grève des soins, on peut l'écarter.
Exactement. Et la deuxième méthode, qui à mon avis est la meilleure et qui malheureusement n'a pas pris assez d'ampleur, c'est la grève du codage, qui pour le coup consiste à ne pas retranscrire les codes des actes qu'on fait à l'hôpital et qui assèche les finances de l'administration.
Et cette grève du codage alors, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi elle ne se fait pas?
On en parle un petit peu, à ma connaissance.
Mais
en France...
Mais ça ne monte pas?
Non, ça ne monte pas. Je crois qu'il y a 400 services qui ont entamé cette grève. Le mien, par exemple...
À l'hôpital Cochin.
Oui, exactement, fait la grève du codage. Mais comme ça ne prend pas d'ampleur, ça reste relativement marginal. Je crois que dans leur ensemble, les médecins sont des bons élèves. Ils ont été habitués, en fait, à faire ce que l'administration leur demandait, j'ai envie de dire malheureusement. Et donc, ils n'arrivent pas à franchir ce cap de la désobéissance.
La désobéissance, là, aujourd'hui, elle se traduit par cette démission, en tout cas, pour marquer les esprits, on l'a compris, sur le plan de la gestion. Ils interpellent encore une fois vos collègues, et vous, j'imagine aussi, Agnès Buzyn, en disant « Mais vous êtes médecin hospitalier, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi la situation, elle ne bouge pas ?» Qu'est-ce que vous lui dites, vous, aujourd'hui, à Agnès Buzyn?
D'abord, attention, il faut relativiser. Agnès Buzyn n'est pas fautive à 100% de la situation actuelle. Elle hérite de décennies d'incurie et de mauvaise gestion de l'hôpital public. Simplement, moi, la critique que je pourrais lui faire, principale, c'est de ne pas vouloir réformer véritablement le système, c'est-à-dire changer la gouvernance, rééquilibrer le pouvoir entre l'administration et les médecins. On pourrait, par exemple, faire, comme ça existe dans d'autres pays, des départements, des services autonomes avec leur propre budget.
Mais ça prendrait une décennie, professeur ?
Non, ça pourrait prendre 2 ou 3 ans.
2 ou 3 ans seulement ?
Oui, et puis par exemple, il faudrait, à mon avis, aussi revoir le temps de travail. Vous savez que les salaires sont très bas, mais le temps de travail aussi. Hein, je rappelle
le temps
même...
de travail est très bas, nous dites-vous ?
Bien sûr, le temps de travail des agents hospitaliers est très bas. On est à 35 heures à l'hôpital et 32 heures la nuit. Donc s'il est vrai de dire que les rémunérations sont basses, il est aussi vrai de dire que le temps de travail est bas.
C'est pas tellement une voix qu'on entend, ce que vous dites là.
Non, et pourtant je peux vous dire que si on revenait aux 39 heures, ça comblerait beaucoup de lacunes dans les services.
Comment vous expliquez alors qu'on n'entende pas ça parmi vos confrères ?
Parce que c'est pas dans l'air du temps. On va toujours, si vous voulez, on entend toujours le même discours qui consiste à dire plus de moyens.
Plus de moyens.
Je suis pas en désaccord avec ça, mais on peut aussi... en dehors des moyens, réorganiser et faire travailler les gens un peu plus.
Bien sûr, mais il y a quand même une réalité. Le salaire des infirmières, par exemple, 28e sur 32 au classement de l'OCDE.
Oui, mais encore une fois, si vous comparez le temps de travail des infirmières par rapport à celui des infirmières de l'OCDE, il est très bas en France. Vous avez 35 heures, vous avez les RTT, vous avez les congés bonifiés. Ça, c'est une plaie à l'hôpital public. Et il faut aussi dire cette vérité-là, parce qu'il y a plusieurs vérités à dire.
Vous allez vous faire des ennemis à le dire.
Oh, vous savez, je pense que tout le monde sait ce que je pense. Mmh. Je suis tout à fait d'accord pour dire que le salaire des infirmières est trop bas, mais au lieu de l'augmenter comme ça, de manière aveugle, 300 euros, ce qui me paraît tout à fait impossible, on pourrait aussi revoir les grilles et les statuts.
D'accord. Alors, sur le salaire, admettons, mais quand même, le manque de lits, il est là, il est réel. Par exemple, en pédiatrie, on l'entendait dans le papier de Pauline Jacquot tout à l'heure, on est obligé d'envoyer des enfants soignés en gynécologie parfois.
Oui, c'est tout à fait scandaleux. C'est une réalité dans beaucoup de services, pas dans tous, il ne faut pas généraliser. Mais en effet, depuis 10 ans ou 5 ans, il y a énormément de coupes budgétaires qui pénalisent les malades. Ça, c'est tout. Je ne le nie pas.
Et là, l'enveloppe budgétaire, l'enveloppe promise par Agnès Buzyn, 10 milliards d'euros sur les dettes étalées sur 3 ans, 1,5 milliard, le montant de l'enveloppe, c'est suffisant d'un mot ?
En théorie, c'est tout à fait considérable, je crois. Mais simplement, là où les gens sont d'accord de râler, c'est qu'on n'en voit pas les mesures concrètes sur le terrain.
Pas encore ?
Pas encore. Dit.
Un mot, quelle sortie de crise vous voyez et quelle échéance quand on entend vos collègues dire à l'envi et répéter l'hôpital public se meurt ?
Je pense que l'hôpital public va continuer à se dégrader. Je ne suis pas très optimiste sur son devenir. Et à mon avis, dans les 5 ans qui viennent, on assistera à une déliquescence continuelle. Je ne vois pas comment, en l'absence de réforme globale du système de santé, y compris de la sécurité sociale, je ne vois pas comment on peut dégager les marges financières suffisantes pour revaloriser les salaires et remettre du personnel. Ça me paraît impossible.
C'est une fatalité, c'est ce que vous nous dites ce soir.
Ce n'est pas une fatalité, mais il faudrait un gouvernement courageux qui réforme de fond en comble le système, et ça n'est pas le cas.
Merci beaucoup, professeur, d'être venu ce soir nous voir. Professeur Michael Perromor, merci de votre vérité ce soir.
Europe 1.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 à suivre, Nathalie Lévy.
Après le rappel des titres, les grandes voix qui vont s'installer dans ce studio, de l'eau dans le gaz au Vatican, tension entre Benoît XVI et son prédécesseur, le pape François, et puis les violences policières, on en reparle bien sûr.
Et vous pouvez bien sûr interpeller les grandes voix et participer au débat, comme chaque soir, c'est le 39-21 qu'il faut composer dès maintenant, votre grand journal du soir jusqu'à 20h. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Emmanuel Macron juge l'inquiétude légitime sur la réforme des retraites. Forcé de s'exprimer après avoir été interpellé par des manifestants en marge d'un déplacement à Pau, le président de la République promet de continuer à expliquer et concerter. Une nouvelle journée d'action poursuivie aujourd'hui. 4% dans l'enseignement, 6% à la SNCF. Demain, 80% des TGV sont maintenus, 75% des TER. Amélioration aussi à la RATP. Ségolène Royal menacée d'être débarquée de son poste d'ambassadrice des pôles. Le Quai d'Orsay envisage de mettre fin à ses fonctions après les nombreuses critiques sur son manque apparent d'implication. Le procès du père Prénat a pu finalement débuter. Les victimes des attouchements du prêtre ont témoigné à la barre face à lui aujourd'hui. Récit de l'audience à suivre dans le journal de 19h. Et puis le tennis, l'Open d'Australie en question. Les qualifications ont démarré dans un air irrespirable à Melbourne dû aux fumées des incendies. Une joueuse a même dû abandonner après un malaise et une violente quinte de toux.
Merci Sébastien, l'info revient avec vous à 19h. Anissa, attention, soyons prudents du vent demain.
Oui, sur une grande partie du pays, c'est le vent du sud qui va souffler. Alors la bonne nouvelle, c'est que le vent du sud, il nous apporte des températures très douces pour la saison. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il souffle très fort, jusqu'à 90 km/h sur les côtes atlantiques. Et puis il va souffler dans les terres, un petit peu partout. 60 km/h en région parisienne demain, 70 km/h dans l'est, du côté de l'Alsace. Et puis une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest. Donc demain sur la Bretagne, Daniel Cotentin, beaucoup de pluie au début de la journée. Les températures, je vous le disais, elles sont douces, hein, 3 à 9 degrés demain matin, jusqu'à 10 degrés au bord de la Méditerranée. Dans l'après-midi, nous aurons 10 à 16 du nord au sud, 10 pour Trappes, 12 à Grenoble et Paris, 14 à Clermont-Ferrand et jusqu'à 16 degrés à Montluçon.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, et c'est l'heure du débat des grandes voix. Jusqu'à 19h, Nathalie avec autour de vous ce soir Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Yannick Halimi du service politique du Parisien.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Et merci d'être là pour cette demi-heure ensemble. On va commencer avec ces violences à la fois de la part des policiers, à la fois du côté reçu aussi par les policiers. Christophe Castaner recevait aujourd'hui la famille de Cédric Chouviat, vous savez, ce livreur de 42 ans, mort après un contrôle routier, aucun policier suspendu sur les quatre. Ses proches hésitent entre colère et déception. Pendant ce temps, se tenait un rassemblement pour rendre hommage au policier Franck Labois, fauché lui par un malfaiteur à Lyon. Et puis, il y a eu aussi cette scène virale d'un policier CRS qui faisait tomber une jeune femme à Toulouse. C'était le 9 janvier. Ça fait beaucoup d'événements hein, ces jours-ci, successivement. Emmanuel Macron a pris la parole. Il était silencieux jusqu'ici. Il a demandé depuis peu au gouvernement des propositions claires pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre confrontées à de nouvelles accusations de violence. D'abord, Gérard Carrérou, ces violences qu'on voit, qui se succèdent, pourquoi ?
Écoutez, il y a une montée, incontestablement, il y a une montée de violences dans notre société. Il y a des violences au quotidien, alors on appelle ça des incivilités ou plus graves. Il y a de la violence sociale, on vient d'en avoir des éléments. Il y a de la violence, et surtout, on a l'impression des violences gratuites, des gens qui tout d'un coup se mettent à se taper sur les uns sur les autres. Donc, je crains, pour tout dire, je crains une dérive de notre démocratie vers une société violente à l'américaine. Je connais bien l'Amérique, j'y passe beaucoup de temps, et je suis toujours frappé quand la violence de la police... Alors là, parfois, on parle là maintenant des violences policières. Il ne faut vraiment pas avoir jamais mis le pied en Amérique pour imaginer ce que c'est que des violences quand il y a une répression Et notamment d'ailleurs, je dois dire, souvent elle prend un aspect racial, puisque c'est souvent à l'égard de la communauté noire. Mais les violences sont terribles. Et les types qu'on jette à terre et qu'on étrangle à moitié et qui meurent, c'est pas le... Là on est à juste titre indigné de l'affaire Chouya, parce que c'est indigne, mais je veux dire, ça arrive assez fréquemment dans les villes américaines. Et je redoute qu'on arrive à une situation de... Alors donc, le président de la République a raison de dire, attention, il faut faire quelque chose. Oui, mais... c'est plus facile à dire ça que de trouver des remèdes, parce que la violence, elle est de tous les côtés.
La violence, elle est de tous les côtés. Et d'ailleurs, le discours des pouvoirs, enfin, du gouvernement, que ce soit Emmanuel Macron, Christophe Castaner, Édouard Philippe, il n'est pas le même selon les jours. Hein. Il a été modifié. On est un peu sur une ligne de crête, Charles Villeneuve, dans ce dossier des policiers et des forces de l'ordre confrontées à de nouvelles accusations de violence pour le gouvernement ?
Moi, je crois qu'il faut faire un tout petit peu d'histoire pour comprendre comment la doctrine d'emploi des forces de sécurité a largement changé. Elle était, à partir de 1986 et la mort de Malik Osikine, la préservation avant tout de la vie humaine plutôt que la protection des biens. Ça a un peu évolué. Ce qui l'a fait évoluer, d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on a enseigné dans les écoles de police ce qu'on appelle la technique de l'autocontrainte, c'est-à-dire ne pas rendre un coup contre
qu'on
un
a
coup,
reçu.
Et surtout ne pas le rendre plus fort que celui qui a été donné aux forces de police. Bon, et ce qui a tout changé, c'est l'arrivée des Gilets jaunes. Et notamment, le point névralgique de l'évolution de la technique et de l'utilisation des forces de l'ordre, c'est surtout la mise à sac de l'Arc de Triomphe et l'incendie du Fouquet's. À partir de là, bien sûr, la technique d'intervention s'est faite plus rapide, plus musclée et donc plus à risque. Ouais. Et c'est à partir de là, avec un phénomène nouveau, c'est que contrairement à tout ce qui s'était passé historiquement, c'est qu'on filme maintenant et qu'on met en plus le film sur les réseaux sociaux,
évidemment.
Et dès lors, et bien évidemment, il y a une sorte de... Il ne faut pas oublier aussi que le recrutement de la police a beaucoup changé, qu'il se fait beaucoup dans la périphérie, dans les banlieues, et que les policiers qui sont agressés se lâchent beaucoup plus facilement qu'avant aussi. Vous avez les effets que vous pouvez constater et dont on vient de parler.
Jeannick Halimi, je parlais d'embarras peut-être. Je posais la question de l'embarras des pouvoirs publics et de Castaner quand il s'agit des policiers, de ligne de crête, parce qu'on voit, on ne peut pas désavouer les policiers quand on est un gouvernement, n'est-ce pas? On peut les rappeler à l'ordre, mais il faut mettre...
Tout à fait. Alors surtout le ministre de l'Intérieur qui doit s'appuyer et qui doit avoir la confiance, une confiance réciproque et puis même des intérêts bien compris entre le ministre et les policiers. Vous avez tout à fait raison. Juste, je rajouterai peut-être, et après je répondrai à votre question, Nathalie. Le changement de doctrine, effectivement, de façon quasiment officielle, est intervenu pendant les Gilets jaunes. Mais cette montée, quand même, de rapports de force différents entre des manifestants et la police remonte à Nuit debout et aux événements qui ont eu lieu au moment des manifestations contre la loi El Khomri. En général, c'est ce que disent les policiers là. Et puis même les représentants des manifestants de l'époque disaient qu'il y a eu un peu un tournant, mais c'est vrai que le changement de doctrine était plus officiel. Mais au moment des Gilets jaunes. Là où je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a un problème et on ne sentait pas jusqu'à présent depuis un an comment le ministère de l'Intérieur, les pouvoirs publics et l'exécutif en général géraient ce problème-là, parce que tout le monde voyait bien qu'il y avait des violences sans essayer de rejeter la faute sur l'autre. Et vous avez raison, Nathalie, les pouvoirs publics, M. Castaner, devaient défendre ses troupes, sauf qu'au regard de tout ce qui se passe en ce moment, de l'accumulation de ces violences. Moi, j'étais en contact tout à l'heure avec des familles de victimes et avec les avocats de victimes, certains avocats de victimes, qui me disaient que depuis 48 heures ou 24 heures, on assiste de la part des pouvoirs publics, et notamment de Christophe Castaner, et avec la prise de parole d'Emmanuel Macron, à une bascule vers justement la prise en compte en priorité, des problèmes posés par la violence des policiers.
On hausse le ton du côté des pouvoirs publics. Donc, on en reparle dans un petit instant, évidemment, parce que, encore une fois, le ton a changé ces derniers jours.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours, jusqu'à 20h sur Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et le débat des grandes voix qui se poursuit jusqu'à 19h comme chaque soir avec bien sûr vos interventions en direct au 39-21 et ce soir Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Yannick Halimi du service politique du Parisien.
Et Abdelkrim également qui est avec nous depuis les Hauts-de-France. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir même. Bonsoir.
Bienvenue au micro d'Europe 1. Vous, je crois que vous avez subi l'hostilité policière. Hein.
Oui. Moi, j'ai très mal vécu. Mais ça remonte à 2018, où j'ai été discriminé par rapport à mes origines par un policier de Roubaix, avec la totale complaisance du commissaire de Roubaix et puis de Castaner, parce que je lui ai écrit avec des preuves, bien sûr, mais personne ne nous écoute. Et c'est là qu'on découvre que y a un mot maintenant, la valeur probante. La valeur probante, ça veut dire qu'un policier peut déclarer ce qu'il veut, où il l'entend, et comme il veut, comme bon lui semble. Et il peut vous briser. Rien qu'avec un trait de plume mensonger. Il peut faire ça. Voilà.
Alors, ça s'appelle de la dérive sécuritaire. Aujourd'hui, c'est...
Oui. Alors, au niveau dérive sécuritaire, c'est vrai. C'est le sujet. C'est vrai. Là, maintenant, il y a vraiment une rupture. Pour moi, la rupture est consommée entre le peuple, hein,
les forces de l'ordre.
Et les forces de l'ordre, et le gouvernement, et les politiques.
Merci.
Parce que quelque part, les gens qui pouvaient avoir des références, étaient des référents pour nous. Ben, on ne s'y retrouve plus. Ouais. Les politiques, ils dérivent, ils se remplissent les poches, mais sans aucun état d'âme.
Merci.
Merci
beaucoup. Merci beaucoup, Abdelkrim. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis les Hauts-de-France ce soir. Vous entendez, Carrérou, Jean-Geneve, Jeanne Galimi la méfiance, la défiance.
Oui, justement, je retiens de ce que vient de dire ce monsieur, je retiens ce côté, cette cassure sociétale entre... Et je crois qu'effectivement, dans l'histoire de France, il faut remonter. Il y a eu des périodes très dures au moment de la guerre d'Algérie. Il y a eu, effectivement, les policiers ont été... Ils ont donné pas mal de victimes. Enfin, ils ont à la fois fait des victimes, ils ont été victimes. Ce sont dans ces périodes très, très dures. Et là, effectivement... De temps en temps, je me mets dans la peau d'un policier et je me dis, on peut quand même comprendre. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui font la chasse à la police. Qui font la chasse à la police dans les banlieues, qui font la chasse à la police. Il y a des casseurs qui cherchent la bagarre avec la police. Et les flics ont l'impression, ils ont une impression, alors elle n'est peut-être pas tout à fait juste, ils ont l'impression qu'ils deviennent peu à peu eux-mêmes des victimes non défendues. Et du coup, non respectés en tout cas. Et quand on leur dit, bah oui, on vous aime plus, on vous déteste, etc., et qu'on leur crie ça à quelques centaines de gens, ils finissent par le croire. Et il y a un moment où ils se rebiffent. Et quand je vois le croc en jambe, c'est pas grand chose le croc en jambe avec cette femme qui tombe. D'ailleurs, elle se remet sur ses pieds dans la seconde. C'est pas un événement mondial. Mais il y a quelque chose là. C'est un flic qui a dit, ah ben toi, tu veux nous enquiquiner, et ben voilà, je vais te montrer qu'on peut aussi faire ça.
C'est ce qu'ils ont dit du côté, évidemment.
Donc je les comprends d'une certaine manière.
C'est ce qu'a dit Édouard Philippe. Hein. Il a rappelé ce week-end que les policiers font un métier extrêmement difficile, qu'ils se font insulter, cracher dessus, balancer des pavés. Ils doivent rester calmes. Et dans le même temps, on essaie d'avoir un équilibre. C'est pour ça que je parlais de ligne de crête. Parce qu'il ne s'agit pas de les désavouer, ces policiers. On se souvient, après les attentats de 2015, on se souvient de la ferveur de la population, de cette unité, hein, de ce mouvement très fort. Les policiers, ils étaient aimés. Et aujourd'hui, alors certes, ils sont exsangues, mais on voit bien qu'il y a cette dangereuse logique qui est peut-être en train de s'installer. Yannick Halimi.
C'est une logique c'est une spirale infernale, qui pourrait être cassée. Encore, Dieu merci, on est dans un système démocratique, on a des excès d'un côté, des excès de l'autre. Quelquefois, le politique prend la parole pour essayer de mettre un peu d'ordre dans cette, entre guillemets, dans cette anarchie et dans cet extrémisme. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. Le Abdelkrim qui parlait disait fort justement, il y a une rupture. Il y a peu entre le corps politique et la société à travers le soutien, semblait-il, inconditionnel apporté par les pouvoirs publics aux policiers. Je pense qu'on n'est pas encore à la rupture et que ce climat de défiance qui est réel, ce risque de rupture entre les pouvoirs publics et l'opinion publique à travers le soutien encore une fois apporté aux policiers peut encore se reconstituer. Il n'est pas question de dire les policiers sont les gentils ou les policiers aujourd'hui sont les méchants, mais il est dans l'autorité de l'exercice et la mission du politique que de rappeler à l'ordre dans le bon sens du terme les devoirs, les droits, bien sûr, mais les devoirs de la police en matière de maintien de l'ordre et d'utilisation, par exemple, d'armes ou de méthodes, par exemple, comme le plaquage ventral, qui est considéré comme illégal par l'Europe.
Parce qu'un rempart ne peut être suspecté de dérive sécuritaire, c'est ce qu'on commence à entendre, cette petite musique du côté du pouvoir. On s'en parle dans un instant de cette rupture, cette fois, entre les papes, n'est-ce pas, Charles Villeneuve ? C'est juste après ça.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Jannick Halimi du service politique du Parisien.
Y a-t-il rupture entre les deux papes? Dans un ouvrage à paraître demain, et dont le Figaro a publié les premiers extraits d'ailleurs, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, 92 ans, ancien pape, se montre très critique envers l'actuel, le pape François. Il l'attaque notamment sur la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés en Amazonie. Le pape Benoît doit rendre sa décision dans les prochaines semaines. Alors depuis, c'est un peu une espèce de confusion sur qui a écrit cet ouvrage. Normalement, sur le papier, c'est signé donc de Benoît XVI et de Robert Sarah, un cardinal ultra conservateur. Sauf que, depuis, l'ancien pape allemand a demandé que son nom soit retiré de ce livre controversé. Selon son secrétaire particulier, sa signature doit être enlevée, etc., etc. Charles Villeneuve, que se passe-t-il entre l'actuel souverain pontife et son prédécesseur?
Enfin, il se passe surtout cette affaire des deux papes. Pose directement pape François, le titulaire actuel, pas le pape émérite Benoît XVI. Une question qui me paraît moi primordiale. Quelle est sa capacité réelle à faire évoluer l'Église au-delà de ses prises de position personnelles? C'est-à-dire avoir plus de sympathie pour les homosexuels, pour les divorcés, pour les pauvres, pour l'immigration, etc. Quel est son degré, si vous voulez, réel de contrôle sur l'appareil de direction de l'Église? Parce qu'on voit bien là, avec le cardinal Sarah, que pointent tous les ultra-conservateurs, ceux qui, de toute façon, au sein de la curie romaine, ouais. c'est le gouvernement, c'est à la fois Matignon, Bercy et le Quai d'Orsay. Et donc là, au sein même de ce gouvernement de l'Église, vous avez toute une série d'ultra-conservateurs qui sont souvent d'ailleurs ici des pays émergents, aussi bien l'Afrique que l'Asie. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Et certains en tout cas, militent ouvertement pour une sorte d'abdication du pape François, dont il faut se souvenir toujours que c'est un jésuite et que comme tous les jésuites, il a vécu et il a exercé son mandat, si vous voulez, de cardinal notamment, au sein de la cité. Et donc, il y a une sorte d'opposition entre tous ces héritiers des dominicains et des jésuites, c'est assez clair. Et aujourd'hui se pose justement le problème d'un pape émérite,
bien sûr,
qui certes est émérite, c'est-à-dire
ans,
avait donné sa
qui
parole.
Qui avait dit, voilà, terminé pour moi, je ne serai silencieux, je ne me mêlerai plus. Voilà. Et là, Gérard Carrérou, il roule le pacte de non-ingérence.
Je crains que l'ancien pape, l'ex-pape, se soit fait embarquer dans une sorte de complot. C'est un vieux monsieur très digne. Et je pense que le cardinal que Charles Villeneuve
Robert
a mentionné,
Robert Sarah, l'ultra-conservateur.
N'oublions jamais cet homme. Il se voit comme le futur premier pape noir, africain. Il est guinéen d'origine. Oui. Il était évêque de Conakry dès l'âge de 34 ans. Donc c'est vraiment quelqu'un qui... Il a certainement du coffre et du caractère. Et il incarne aujourd'hui quoi? Il incarne la droite religieuse, une sorte de réaction d'une partie des cardinaux qui sont à la curie, mais qui sont aussi ailleurs. Et c'est vrai que l'Église catholique, elle décline essentiellement dans ses bastions d'autrefois, dans l'Europe. Et elle se ressource, elle retrouve des forces dans les nouveaux continents pour l'Église, que sont effectivement l'Afrique, l'Asie. Et évidemment, les évêques de ces pays-là sont d'une foi, je dirais, plus battante.
Oui.
Et ils sont souvent...
correspondent parfaitement à un peu ce qui est la ligne directrice de toute la réflexion théologique de Benoît XVI, c'est-à-dire le sacrifice
pour Dieu.
Voilà. Et ça, ils sont, disons, pour simplifier et pour mettre de la politique là où il n'y en a pas normalement, ils sont plus à droite.
Bah oui.
Et le pape est jugé par tous ces gens-là comme un peu trop à gauche.
Exactement. Avec ce que vous mais c'est ce que disait Charles. C'est ce que disait Charles Villeneuve. Mais bien sûr, ça en fait, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est ce que disait Charles. Ça soulève une question politique épineuse.
Ah, c'est qui va gagner
l'influence, la position comme ça de son successeur. Quelle influence peut-il avoir alors que ça fait 7 ans que Ratzinger a quitté la fonction pontificale.
En tout cas, hier. Comme le disaient Charles et Gérard Carrérou, il y a une véritable opposition entre les modernes et les anciens, et même plus anciens que ça.
Très conservateur et très réactionnaire, auquel,
si je puis me permettre, j'ajouterais, vous parliez du clergé très conservateur et réactionnaire des pays qu'on disait en voie de développement africains.
Émergents.
Il y a aussi le clergé catholique américain qui est extrêmement conservateur et qui est en train de pousser à la roue, dans le sens très offensif du terme, le moderniste, entre guillemets, qui est François, qui en plus vous le disiez tout à l'heure, Charles, veut réformer totalement la curie. Dernier mot tout de même. Pas seulement qu'un naïf, parce qu'à travers la mesure que pourrait prendre sur toutes les populations amazoniennes contre le célibat des prêtres, pour permettre le mariage des prêtres, François, c'est aussi une mesure extrêmement de reconquête, si je puis dire.
Par rapport à l'Église évangélique.
Exactement, protestante du Brésil et de l'Amérique latine en général. Donc c'est pas seulement... Tout le monde est beau, tout le monde est gentil.
C'est une décision politique extrêmement importante.
Exactement, qui sera rendue dans les prochaines semaines pour le pape Benoît XVI. Le pape François, c'est quand même un sacré mauvais tour qui lui est joué aujourd'hui. Merci aux grandes voix. Et les deux papes, c'est sur Netflix avec Anthony Hopkins dans le rôle de Benoît XVI. Je vous le signale parce qu'on me le signale, on me le confie à l'oreille. Il faut absolument le regarder.
Il faut vraiment le recommander.
C'est ma direction
parce que...
qui me le signale. Il faut le regarder. Donc achetez une télé si vous n'avez pas, je vais faire ça.
Mais Benoît XVI est dans la position il choisit Bergoglio en réalité, oui.
Et là, on ne peut plus savoir où est la réalité et où est la fiction.
Exactement. Voilà, ce soir, vous avez le programme. Merci les grandes voix.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy sur Europe 1.
Avec le programme dans quelques secondes, d'abord, c'est évidemment l'info qui revient avec Sébastien Krebs. Et puis, l'invité politique, c'est Guillaume Pelletier ce soir, vice-président délégué des Républicains.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir. La suite, Nathalie Lévy.
Un mot du programme, l'interview politique, 19h10, Aurélie Herbemont reçoit ce soir Guillaume Pelletier, vice-président délégué des Républicains et député du Loir-et-Cher. 19h20, c'est demain en France, demain dans le monde. Et puis 19h30, le cybercrime, ça existe de plus en plus, il va falloir s'y faire. Comment lutter? On vous dit tout.
Et votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Se sont habitués trop de nos concitoyens aujourd'hui à manifester dans la violence. Ensuite, de la même manière, j'attends nos policiers et nos gendarmes la plus grande déontologie.
Après le ministre de l'Intérieur, cette fois c'est le président de la République qui rappelle les policiers à leur devoir d'exemplarité. Emmanuel Macron demande à Christophe Castaner de lui faire des propositions sur la déontologie.
Les victimes du père Prénat à la barre, le procès du prêtre pédophile a finalement pu débuter aujourd'hui à Lyon.
Dans ce journal également, 67 millions de Français qui font moins de bébés, les chiffres du recensement. Et puis le malaise d'une joueuse de tennis, l'Open d'Australie, peut-il avoir lieu dans l'air irrespirable des fumées d'incendie?
On a vu déjà des images impressionnantes, la tendance météo, Anissa.
Alors, demain, c'est une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest et qui vous apporte dans ses valises beaucoup de pluie et du vent sur quasiment tout le pays. Tous les détails à la fin du journal. Europe 1. Écoutez le monde changer. Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Le changement de ton se confirme au sommet de l'État. Hier, c'était Christophe Castaner. Cette fois, c'est Emmanuel Macron qui évoque sans détour les cas de violence policière et qui rappelle les forces de l'ordre à leur devoir d'exemplarité. Déclaration faite tout à l'heure en marge d'un déplacement à Pau.
Le droit de manifester est un droit constitutionnel auquel je tiens. Mais se sont habitués trop de nos concitoyens aujourd'hui à manifester dans la violence. Et je le dis parce que le fait générateur, comme on dit, est là. Ensuite, de la même manière que j'aurai toujours ce discours et que je considère que nos forces de l'ordre sont là pour nous protéger, protéger l'ordre public, j'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur là-dessus de me faire des propositions très concrètes. Il y a eu, très clairement, des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser, et je ne veux pas que, justement, ça atteigne la crédibilité, la dignité de nos professionnels des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance.
Un propos recueilli par Adrien Beck pour Europe 1.
Au même moment, le ministre de l'Intérieur recevait aujourd'hui place Beauvau de la famille de Cédric Chauviat. Vous savez, ce livreur mort à Paris au moment de son interpellation. Ses parents, qui réclament toujours la suspension des 4 policiers incriminés, disent être ressortis sans réponse.
Après les accusations de l'actrice Adèle Haenel, le réalisateur Christophe Rodia a été placé en garde à vue aujourd'hui pour être interrogé. La comédienne l'accuse d'attouchement répété alors qu'elle n'avait que 13 ans lorsqu'elle tournait son premier film.
Et puis à Lyon, le procès du père Prénat, il a finalement pu débuter ce matin après un report pour cause de grève des avocats, on vous en parlait hier.
L'ancien prêtre jugé 30 ans après les faits pour des agressions pédophiles sur les jeunes scouts qui l'encadraient, 10 victimes sont parties civiles aujourd'hui, certaines ont témoigné à la barre Jean-Luc Boujon.
Oui, et ça a été le cas notamment de Pierre-Emmanuel Germain-Til, victime du prêtre entre 90 et 91, et qui est arrivé cet après-midi avec au cou son foulard de scout de l'époque. Au moment de venir à la barre, il a ostensiblement enlevé le morceau de tissu vert en déclarant qu'il s'en débarrassait, tout comme il se débarrassait de l'emprise du prêtre. Il a ensuite décrit les attouchements du curé Prénat, ses caresses sur son sexe, alors que le jeune garçon était enfant de cœur à la paroisse Saint-Luc. Tout cela a eu lieu peut-être une cinquantaine de fois, a affirmé Pierre-Emmanuel Germain-Til, un chiffre vigoureusement contesté par le père Prénat, qui la plupart du temps a des souvenirs des faits très flous, mais qui là est catégorique. 10 fois je veux bien, déclare-t-il à la présidente, mais pas 50, ce n'est pas possible. Et le prêtre d'expliquer à nouveau pour la énième fois qu'à l'époque pour lui ce n'était que de la tendresse, qu'il n'avait pas conscience de faire du mal, mais que maintenant ça y est, il avait compris en constatant les conséquences dramatiques sur la vie de ces hommes. Il a ajouté qu'il s'excusait et qu'il demandait pardon, un discours devenu mécanique au fur et à mesure de la journée. Et pour tout dire, qui n'est pas apparu très sincère.
Jean-Luc Boujon, en ligne du palais de justice de Lyon, le père Prénat qui risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
C'était une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites à l'appel de plusieurs syndicats, plusieurs manifestations à travers la France, mais avec aussi une mobilisation en recul.
Hein. Quelques blocages dans les ports, mais 4% seulement des enseignants en grève et 6% des agents de la SNCF. Demain, 80% des TGV et TER vont circuler. Les trois quarts des Transiliens, la RATP promet aussi une amélioration.
Le groupe Auchan qui va supprimer 517 postes au sein de ses sièges sociaux, plan de départ volontaire lié à une réorganisation. Les hypermarchés sont en difficulté.
La politique et Ségolène Royal menacées d'être débarquées de son poste d'ambassadrice des pôles. Le Quai d'Orsay envisage de mettre fin à ses fonctions après les nombreuses critiques sur son manque apparent d'implication.
Nous sommes désormais plus de 67 millions de Français, chiffre de l'INSEE.
C'est le recensement au 1er janvier. La population augmente de 0,3% avec quelques enseignements. Bonsoir Hélène Terzian.
Bonsoir.
On fait toujours un peu moins de bébés, mais cette baisse ralentit.
Effectivement, 753 000 bébés sont nés en France l'an dernier. C'est 6 000 de moins que 2018, mais presque rien comparé aux baisses de ces 4 dernières années. Voilà pourquoi l'INSEE estime que l'indice de fécondité se stabilise. Il s'établit aujourd'hui à 1,87 enfants par femme. Cela s'explique en partie par une conjoncture économique plus favorable, les effets de la crise financière de 2008 qui s'estompe. Et sachez qu'avec ce taux, eh bien, la France reste le pays le plus fécond de l'Union européenne. Autre enseignement, même s'il n'y a là rien de très étonnant, le modèle familial se métamorphose. La famille dite traditionnelle, c'est-à-dire un couple qui vit avec ses enfants, tous issus de son union, reste majoritaire, mais depuis 2011, il y en a moins. Leur proportion a reculé de 69 à 67% au profit des familles monoparentales, dont le taux passe de 22 à 24%. La proportion de familles monoparentales, elle, est restée stable à 9%.
Les précisions d'Hélène Terzian, merci.
Les Européens augmentent la pression sur l'Iran et déclenchent désormais une procédure contre Téhéran.
La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne veulent contraindre le régime à respecter à nouveau ses engagements pris dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Téhéran réplique par une mise en garde sur les conséquences d'une telle décision. L'Iran, qui par ailleurs annonce avoir procédé à des arrestations après le crash du Boeing ukrainien abattu par erreur par un missile.
On parle de tennis maintenant. L'Open d'Australie aura-t-il lieu ? La question est posée ce soir vu les conditions qui règnent à Melbourne.
Le tournoi de qualification a commencé la nuit dernière, mais dans un air irrespirable, la ville envahie par les fumées des incendies. Bonsoir Corinne Boulou.
Bonsoir.
Les participants en sont déjà affectés.
Oui, c'est vrai que l'image de cette joueuse slovène prise d'une violente quinte de toux au bord de l'évanouissement et contrainte à l'abandon a de quoi effrayer. Le malaise d'un ramasseur de balles aussi. 63 matchs sont cependant allés à leur terme dans cette ambiance de fumée toxique avec une qualité de l'air considérée comme mauvaise pour la santé. Le français Constant Létienne, 224e mondial, vainqueur de son premier tour de qualification ce matin, nous a confié avoir été surpris d'avoir dû jouer dans de telles conditions.
Moi, j'étais pas trop d'avis de jouer au tennis dans ces conditions-là. Il y avait une grosse fumée et je sais pas trop pourquoi, ils m'ont lancé les matchs. C'est pas raisonnable. Enfin, voilà, on fait quand même un effort physique pendant 2h30 en respirant de la fumée d'incendie. C'est forcément mal, quoi. On sent la fumée, ça pique un peu les yeux. C'était vraiment pas facile de jouer dans ces conditions-là aujourd'hui.
Et le Français estime que les joueurs sont des cobayes à moins d'une semaine du début du premier tournoi du Grand Chelem. La direction de l'Open d'Australie reste pour le moment inflexible aux critiques, mais il est difficilement compréhensible de lancer des matchs en plein air quand la mairie de Melbourne conseille à ses habitants de rester confinés chez eux, fenêtres fermées, comme c'était le cas aujourd'hui.
Ouais, on va espérer que la météo change, puisque je crois qu'ils attendent de la pluie, ce qui pourrait changer la donne. Corinne Boulou, merci.
En tout
merci.
Cas, la polémique, elle est là et bien là, et on la suit avec vous. Grâce à vous, Corinne. Merci Sébastien. L'info revient avec vous à 19h30 et Anissa, une journée pluvieuse demain.
Oui, effectivement. Alors la pluie, elle est bien chez nous. Alors elle sera à Melbourne aussi. Hein. Pendant 3 jours, il va pleuvoir. Les 3 prochains jours, voilà, c'est de la pluie pour Melbourne. Alors chez nous, en France, c'est pour la Bretagne et le Cotentin, voilà, que la journée sera arrosée demain avec une nouvelle perturbation qui arrive avec de la pluie et du vent du sud assez soutenu. Hein. Prudence demain sur les côtes du nord, les côtes atlantiques et même jusque dans le sud, le vent du sud souffle jusqu'à 90 km/h demain en bord de mer. Dans l'après-midi, eh bien, c'est sur le Poitou-Charentes, les Ardennes, la région parisienne, c'est là que la pluie va tomber demain après-midi, avec toujours ce vent du sud qui souffle même dans les terres, sur Paris par exemple, jusqu'à 60 km/h. Alors sur la façade atlantique, je vous le disais, le long de la Manche et à l'est, en Alsace, on attend beaucoup de vent. Attention, 2 départements, le Finistère et le Morbihan, sont toujours placés en vigilance orange, vague submersion, et le vent de demain ne va pas arranger les choses, évidemment. Au bord de la Méditerranée, c'est le vent d'automne qui va souffler, puis quelques petites averses sont prévues pour demain après-midi. Les températures, 0 à 9 degrés, 0 à Belfort, 8 à Paris demain matin et jusqu'à 15 à Marseille.
Europe 1.
Et la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
C'est la politique, l'interview politique avec vous, Aurélie Herbemont. Bonsoir.
Bonsoir.
Et votre invité ce soir, Guillaume Pelletier.
Guillaume Pelletier, effectivement, vice-président de LR et député du Loir-et-Cher.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec Aurélie Herbemont et votre invité ce soir, Guillaume Pelletier, vice-président délégué des Républicains et député du Loir-et-Cher.
Bonsoir Guillaume Pelletier.
Bonsoir.
Le torchon brûle entre Ségolène Royal et l'exécutif. Elle risque de perdre son poste d'ambassadrice des pôles. Est-ce que vous, Guillaume Pelletier, vous êtes choqué quand vous l'entendez être parfois assez critique avec le gouvernement malgré cette fonction d'ambassadrice?
Alors je vais te dire que c'est un sujet qui ne m'intéresse absolument pas. Et si ça laisse un peu plus de temps à Ségolène Royal pour s'occuper du Parti Socialiste, tant mieux pour elle.
Tant mieux pour elle. Elle est notamment très critique sur les retraites, ça tombe bien, vous aussi à droite. Alors pas pour les mêmes raisons, mais vous êtes très critique sur cette réforme des retraites. Est-ce que le Premier ministre vous a rassuré cet après-midi à l'Assemblée en disant qu'il pensait qu'à la fin des travaux de la conférence de financement, il y aurait une mesure d'âge?
Moi j'aimerais qu'on cesse cette mascarade. Ça fait des semaines et des semaines qu'on raconte des carabistouilles aux Français sur une pseudo-réforme des retraites dont chacun a bien compris aujourd'hui qu'elle ne verrait jamais le jour.
Elle ne verra jamais le jour, selon vous ?
Avec un monsieur Macron, président de la République, qui joue sur les mots, faisant de l'analyse sémantique tout au long de l'après-midi, ça va. Ce qu'attendent les Français, c'est un gouvernement de vérité et de courage qui réforme en profondeur le système des retraites. Parce qu'aujourd'hui, il est menacé. Il est menacé parce que, en 40 ans, il y a 40 ans, on partait à la retraite à 65 ans en France, juste avant l'arrivée de François Mitterrand. Et aujourd'hui, on débat 62, 63, 64. Nous vivons plus longtemps, donc disons la vérité aux Français, pour sauver notre régime, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps.
Justement, le Premier ministre dit à la fin, il y aura une mesure d'âge.
Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont au pouvoir, ça fait 2 ans et demi qu'ils disent, vous allez voir le prochain semestre ce qui va se passer. Il ne se passe rien, parce que c'est un gouvernement tout à la fois inspiré du technocratisme le plus financier, profondément injuste, et enveloppée dans le socialisme le plus suranné. C'est une réforme, telle qu'elle est proposée, technocratique et socialiste. Technocratique parce qu'on n'y comprend rien, mais rien du tout. Moi, je suis député de Loir-et-Cher, je participe à plusieurs cérémonies de vœux. Il n'y a pas un Français, il n'y a pas un Loir-et-Cherien qui comprend cette réforme.
Suppression des régimes spéciaux.
Mais c'est faux. C'est socialiste parce que, je rappelle que ce gouvernement, va augmenter le nombre de régimes spéciaux. Il faut bien que les Français qui nous écoutent
alors,
le comprennent.
Il y a une dizaine de professions qui ont droit à des concessions. On part de 42 régimes différents.
Des milliards et des milliards de concessions. Les aiguilleurs du ciel, les danseurs de l'opéra, j'en passe. Enfin, tout ça, on marche sur la tête. La seule réforme possible, la seule, c'est une réforme qui dit tout à la fois la vérité aux Français parce qu'il nous faut garantir le financement des retraites en travaillant un peu plus, d'une part, et deuxièmement, en rétablissant un idéal de justice et pour les professions libérales, les artisans et les commerçants, qui sont aujourd'hui victimes d'un véritable racket, je pense en l'occurrence aux avocats qui ont raison de manifester leur mécontentement, parce que cette réforme est profondément injuste. Je le dis à ceux qui nous écoutent, le gouvernement Macron, c'est plus de régimes spéciaux à la fin de la réforme qu'avant la réforme.
Entre
ceux
c'est pas tout à fait
qui
vrai,
sont nés avant 75, ceux qui sont nés entre 75 et 2005, ceux qui sont nés après 2005, ceux qui, cheminots, sont nés en 1980 ou 1985. Enfin, franchement, que M. Macron, Édouard Philippe, se parlent, reviennent devant la représentation nationale et les Français pour proposer enfin une réforme sérieuse. Nous voulons une réforme des retraites, mais certainement pas la fausse réforme des retraites proposée par M. Macron, parce que la réforme de M. Macron, c'est une réforme technocratique et socialiste.
Alors vous, chez les Républicains, justement, vous proposez un report de l'âge légal, pas une mesure d'âge à laquelle vous ne croyez pas vraiment dans la réforme telle qu'elle est proposée, à 64 ans, puis progressivement à 65 ans. Mais dites-nous, Guillaume Pelletier, ça se passerait mieux avec les syndicats et avec la rue, avec une réforme où vous dites, on supprime les régimes spéciaux et on fait travailler les gens jusqu'à 64-65 ans. Vous aussi, si vous étiez manette, ce serait difficile.
Ah non, j'ai même pas à vous le démontrer par des paroles, mais à vous le démontrer par des actes. Il y a un président de la République qui a décidé d'une mesure d'âge passant de 60 à 62 ans et qui a sauvé le régime des retraites pour 10 ans. Il s'appelait Nicolas Sarkozy.
Et il y a eu des manifestations.
Quelques manifestations dans la rue pendant un mois et demi. Mais à l'inverse de M. Macron, avec lequel on a la double peine, c'est-à-dire les blocages, les grèves et pas de réforme, avec Nicolas Sarkozy, on avait quelques grèves, quelques manifestations, mais une réforme pérenne. Donc, je le répète, cette mascarade a suffisamment duré. Emmanuel Macron est tout sauf un réformateur. C'est un président qui fracture, qui fragmente, qui divise la société française. Il est temps d'imaginer autre chose. Et la seule alternative possible, vous venez de l'évoquer, c'est celle qui est portée par les Républicains. C'est une réforme qui dit la vérité. Nous avons besoin de davantage de moyens financiers, donc en travaillant davantage. C'est possible, ça se passe dans tous les pays du monde, dans tous les pays de l'Union européenne. Et parce que nous aurons un peu plus d'argent, nous pourrons redistribuer. Nous sommes les seuls, par exemple, à dire plus de régimes spéciaux, reconnaissance de la pénibilité, parce qu'il existe bien sûr des métiers pénibles. Nous avons présenté la semaine dernière.
Vous critiquez les concessions et donc en disant que les régimes spéciaux vont être multipliés. Rassurez-nous, chez les Républicains, vous ne voulez pas faire travailler les danseurs de l'opéra ou les policiers jusqu'à 65 ans.
Je pense que chaque Français doit avoir un régime universel, sauf cas spécifiques.
C'est ce comme que nous le gouvernement, alors.
Non, pas du tout. C'est ce que nous proposons avec Éric Woerth et Christian Jacob. C'est très simple. C'est chaque Français a le même système de retraite. On travaille davantage. Mais au sein de chaque métier, quand la médecine du travail reconnaît qu'il existe un métier pénible, eh bien, il bénéficie d'une bonification d'un an tous les 5 ans. C'est un régime de justice. Aujourd'hui, vous avez le racket des professions libérales. Vous avez plus de régimes spéciaux et vous n'avez que de l'injustice sur la pénibilité. Avec les Républicains, c'est exactement l'inverse. Et c'est ce que nous allons continuer à dire à nos compatriotes.
Continuer à dire, même si je retiens que tout à l'heure, vous avez dit que la réforme ne verrait pas le jour. Ça veut dire quoi?
Ah, celle
pour
de
vous
Monsieur Macron, bah c'est comme tout.
Ça veut dire que vous considérez que c'est une non-réforme ou qu'elle n'aura pas lieu? Juste pour être clair.
J'espère qu'elle ait lieu. Mais je sais qu'avec Monsieur Macron, vous savez, Monsieur Macron, c'est le président des carabistouilles. C'est le record de la dette. C'est le record des déficits, c'est le record de l'immigration, c'est le record de la lâcheté sur la laïcité et sur le terrorisme, c'est le record du mépris des territoires. Monsieur Macron, c'est du vent, du vide et du néant. Et donc, il nous faut préparer autre chose, et c'est ce à quoi on s'attelle avec les Républicains et Christian Jacob.
Vous êtes extrêmement sévère. Vous avez mentionné un autre sujet sur lequel je voulais vous interroger aussi. Vous parliez du terrorisme. Hier, un djihadiste qui était rentré de Syrie, qui était emprisonné en France, est sorti de prison. Il fait l'objet d'un suivi judiciaire. Est-ce que pour vous, c'est suffisant?
Mais bien sûr que non. Je suis déçu. Vous savez, vous dites, vous êtes dur. Moi, je rêverais pour mon pays qu'Emmanuel Macron réussisse. Et je suis déçu tous les jours. Mais d'ailleurs, comme une écrasante majorité de mes compatriotes, et par conséquent, pour éviter le duel entre M. Macron et Mme Le Pen, qui sont les complices d'un même système, il nous faut préparer autre chose, une alternative que préparent les Républicains. Sur la question du terrorisme et de l'islamisme, c'est exactement la même chose. Nous sommes les seuls, avec Rachida Dati, avec Guillaume Larrivé, à proposer la rétention de sûreté, qui existe aujourd'hui pour les criminels
dans la loi de 2008.
Les plus dangereux. Nous souhaitons qu'elle soit étendue à tous les djihadistes et apprentis terroristes qui, aujourd'hui, par centaines, vont bientôt sortir de prison. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Il nous faut un État fort, solide et sérieux qui protège les Français.
Alors ça, c'est pour les djihadistes qui sont
emprisonnés en France aujourd'hui, que vous parlez de la rétention de sûreté. Il y a aussi un autre sujet, ce sont les djihadistes qui sont actuellement en Irak et en Syrie, aux mains des Kurdes. Ce week-end, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, disait peut-être qu'il faut les rapatrier pour qu'ils soient jugés en France. Qu'est-ce que vous lui dites? C'est une bonne idée ou une mauvaise idée?
Je suis atterré qu'on ait ce débat en France.
Vous savez très bien que la situation en Irak ne permet pas forcément aujourd'hui de pouvoir faire des jugements sur place.
Non, mais dans la plupart des cas, en Irak comme en Syrie, les autorités locales sont d'accord pour les juger là-bas. Qu'il existe quelques cas exceptionnels pour lesquels on soit d'une fermeté implacable et qu'ils soient immédiatement emprisonnés dans nos prisons de manière forte et ferme. Pourquoi pas ? Mais la règle qui doit être la nôtre, c'est pas de retour de djihadistes sur le sol national. Ils doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes.
Merci beaucoup Guillaume Pelletier d'avoir été mon invité.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Restez avec nous à 19h30, on vous emmène dans les coulisses de la cybercriminalité avec l'un des policiers qui la combat au quotidien, le commandant Pierre Penalba. Il vient nous raconter son métier, ses enquêtes et ses anecdotes parfois incroyables, des conseils aussi, méfiez-vous. On vous dit tout, il a un livre à nous proposer. Et puis à 19h45, cinéma avec Mathieu Charrier depuis l'Alpe d'Huez, rien que ça.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours 2 heures d'infos jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et Europe 1 vous propose tous les soirs avant 19h30 d'avoir un temps d'avance en regardant ce qui va se passer demain, Nathalie.
Oui, demain en France d'abord, ensuite demain dans le monde et puis demain chez vous, chez nous, dans nos vies. Alors 400 nouvelles embauches à venir sur le site de Toyota près de Valenciennes. C'est la bonne nouvelle économique du jour sur notre territoire. Bonsoir Lionel Gougelot.
Bonsoir Nathalie.
Vous êtes le correspondant Europe 1 dans les Hauts-de-France. 400 postes pour un nouveau modèle de voiture qui sera fabriqué sur place.
Oui, en fait on attendait cela depuis 2 ans dans la région de Valenciennes, mais maintenant c'est officiel, Toyota va bel et bien fabriquer sur ses chaînes un nouveau modèle de voiture, un SUV, vous savez ce type de modèle très à la mode, un SUV qui va venir donc compléter sa gamme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette voiture, dont une simple esquisse a été présentée aujourd'hui, cette voiture sera assemblée sur la même chaîne qui produit la Yaris. Vous savez, ici depuis 20 ans, deux véhicules pour une même usine, ça va nécessiter 100 millions d'euros d'investissement supplémentaire et donc l'embauche de 400 personnes, essentiellement des contrats temporaires transformés en CDI, engagement pris par Luciano Biondo, le patron du site Toyota Auna.
Grâce à deux voitures, on va pouvoir enchaîner les cycles de vie produits et de maintenir au plus haut niveau l'emploi à Valenciennes. Il y a 20 ans, quand nous avons lancé TMMF, il y a 20 ans, quand nous avons démarré la production, notre ambition était d'atteindre à peine 2000 salariés. C'était entre 1800 et 2000, c'est les engagements de Toyota. Nous sommes aujourd'hui plus de 2 fois l'engagement puisque nous allons atteindre cette année 4500 salariés.
4500 salariés et des voyants au vert pour le constructeur dans votre région, Lionel ?
En tout cas, il faut le dire, la conjoncture a rarement été aussi favorable. Le modèle hybride de la Yaris est un vrai succès commercial. Le nouveau SUV, lui aussi, bien sûr, bénéficiera de cette motorisation. Demain, Toyota Valenciennes produira 300 000 véhicules par an. L'été prochain, Nathalie, pour la quatrième version de la Yaris, c'est une voiture toutes les 57 secondes qui sortira des chaînes de montage.
Cocorico, comme on dit Lionel Gougelot. Hein.
Merci
beaucoup.
Cocorico à la japonaise, oui.
Voilà, correspondant Europe 1 dans les Hauts-de-France. En tout cas, l'usine qui se porte bien et il faut le signaler. Merci à vous. Demain dans le monde maintenant, avec un rapport qui sera publié dans quelques heures, celui de l'ONG Human Rights Watch, ONG pour la défense des droits de l'homme. Bonsoir Jean-Sébastien Seldaïni.
Bonsoir.
Leur rapport annuel est donc attendu. Il devrait longuement s'attarder sur le cas de la Chine, expliquez-nous.
La Chine est dans le viseur. Pourquoi particulièrement cette année, me direz-vous ? Eh bien, probablement en raison des manifestations pro-démocratie à Hong Kong. Human Rights Watch a passé l'année à pointer du doigt la façon dont ces rassemblements ont été réprimés, et ce, dès le début du mouvement, alors que les grandes marches à travers la ville étaient pacifiques. L'usage de la force est excessif, parfois à balles réelles. Les autorités locales refusent l'installation d'une commission d'enquête indépendante. L'interdiction est faite à certains opposants de se présenter aux élections, et tout ceci a été relevé par Human Rights Watch, en plus des persécutions contre la minorité musulmane ouïghour et l'existence de camps d'internement au Xinjiang.
Et la Chine y est allée franchement, elle a même déjà pénalisé le directeur de l'ONG ce week-end. Hein.
Pénalisé assez sèchement, ils lui ont refusé l'entrée à Hong Kong. Carrément. Le motif invoqué contre Kenneth Roth, son ONG aurait encouragé les manifestants, et je cite le ministère chinois des Affaires étrangères, le directeur du Human Rights Watch doit en payer le prix. Il considère que c'est le droit fondamental d'un pays de dire qui peut entrer sur son territoire. Alors, c'est vrai, à un détail près, la loi de Hong Kong, qui est différente de celle de la Chine, vous savez, c'est l'adage qui prévaut là-bas, un pays de système. Ça veut dire que Hong Kong peut faire partie de la Chine sans que les mêmes règles s'y appliquent. Eh bien, la loi de Hong Kong, elle dispose que le gouvernement local, pas Pékin, a une entière autonomie sur les contrôles d'immigration.
Ah oui, de nombreux universitaires, chercheurs, hommes politiques et journalistes critiquant envers la politique de Pékin connaissent le même sort, régulièrement interdit d'entrer. Merci à vous, Jean-Sébastien Soldaini. Théophile Cossa a fait son entrée lui aussi dans notre studio. Demain dans nos vies, c'est avec vous chaque soir. Bonsoir Théo.
Bonsoir Nathalie.
Coup d'œil ce soir sur Airbnb, nouvelle star de l'espionnage numérique.
Oui, Nathalie Anissa, Airbnb vous connaissez, hein, oui. Ça vous arrive peut-être de l'utiliser pour louer un logement ou mettre en location votre appartement. Eh bien, est-ce que vous saviez que la plateforme enquête sur vous, une enquête extrêmement poussée, digne de la TGSE.
Qu'est-ce que c'est la TGSE ?
Eux aussi s'y mettent.
Absolument, pour vérifier les profils de ses utilisateurs. En gros, pour éviter de vous faire loger chez un dangereux criminel ou à l'inverse, qu'un dangereux criminel puisse loger chez vous. La plateforme a acquis les droits d'un logiciel conçu spécialement pour détecter des activités illégales. Sauf que, ce logiciel permet aussi à Airbnb, et c'est là que ça devient un peu dingue, d'analyser vos traits de personnalité. Pour être clair, est-ce que votre personnalité n'est pas dérangée, psychopathe, machiavélique ?
Oui, c'est ça. Donc, sous couvert de nous protéger.
Exactement. Voilà. Hein, et ça toujours et encore grâce à un système d'intelligence artificielle qui va explorer dans les moindres détails toutes les informations que l'on peut trouver sur vous, sur le web, votre présence sur les réseaux sociaux, ce que vous partagez, ce que vous likez, vos photos. Tout pour essayer d'identifier si vous n'avez pas un caractère potentiellement névrotique, si vous n'êtes pas alcoolique, toxicomane, si vous n'avez pas de lien avec le milieu de la pornographie, bref, si vous êtes irréprochable.
Non mais sérieux, c'est vrai ça ?
Absolument. En tout cas, le géant ne dément pas. Chaque réservation Airbnb est notée sur son risque avant d'être confirmée. Nous utilisons l'analyse prédictive pour évaluer et enquêter sur les activités suspectes avant qu'elles ne se produisent, écrit-il sur son site. Voilà, avis à tous ceux qui rêvent de devenir agent secret. Oubliez le bureau des légendes, envoyez votre CV chez Airbnb.
Ouais, c'est ça, ça s'appelle de l'espionnage numérique. Merci beaucoup Théophile Cossa, même si ça fait froid dans le dos.
Europe 1.
À suivre Nathalie Lévy dans la prochaine demi-heure.
Bah justement, tiens, après le rappel des titres de Sébastien Krebs, immersion dans le monde des cybercriminels. Le lien est tout trouvé avec l'un des policiers qui les combat au quotidien dans notre studio.
Votre grand journal du soir, c'est 2 heures d'infos sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 20h. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Emmanuel Macron juge l'inquiétude légitime sur la réforme des retraites. Forcé de s'exprimer après avoir été interpellé par des manifestants à Pau, le président de la République promet de continuer à expliquer et à concerter. Nouvelle journée d'action peu suivie aujourd'hui. Demain, 80% des TGV seront maintenus, 75% des TER. La RATP promet aussi de nouvelles améliorations. Le nouveau coup de semonce des médecins hospitaliers, ils sont 1 000 000, dont 600 chefs de service à avoir remis aujourd'hui leur démission. Ils n'effectueront plus aucune tâche administrative. Et puis l'ancien pape Benoît XVI prend ses distances avec le livre Plaidoyer pour le célibat des prêtres qui doit paraître demain. Après de vives critiques, il demande à ne pas figurer sur la couverture comme co-auteur, comme il l'était initialement présenté.
Merci Sébastien, l'info revient avec vous demain 18h.
À demain.
Anissa, du vent, attention.
Oui, attention, le vent souffle demain sur une grande partie du pays. Le vent du sud qui souffle d'abord sur les côtes de l'ouest, avec cette perturbation qui va rentrer dans les terres et qui va accompagner ce vent. Donc vous aurez du vent sur la région parisienne, sur le Poitou-Charentes, sur le massif central, sur la vallée du Rhône et même à l'est jusqu'en Alsace. Donc prudence, vent du sud jusqu'à 90 km/h sur les côtes, 70 dans les terres. Les températures grâce à ce vent du sud, elles sont assez douces demain, 3 à 9 degrés le matin jusqu'à 10 degrés au bord de la Méditerranée. On aura 10 à 16 degrés demain après-midi, 12 pour Paris. Et puis attention à cette perturbation qui arrive par l'ouest et qui va vous apporter de la pluie demain sur la Bretagne et le Cotentin.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec votre invitée Nathalie Lévy.
Et une plongée exceptionnelle ce soir dans le quotidien des policiers du web, arnaque, trafic, pédocriminalité. Un commandant de police raconte ses enquêtes et ses anecdotes les plus folles dans un livre, Cybercrime, aux éditions Albin Michel. Bonsoir Pierre Penalba.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir en direct. Votre livre est paru chez Albin Michel il y a quelques jours. Il y a eu 26 millions de cyberattaques l'an dernier en France. Quelles sont les plus courantes ?
Les plus courantes sont basées sur tout ce qui est arnaque au niveau de mails frauduleux. C'est ce que tout le monde reçoit quasiment, avec des liens dedans ou avec des fichiers à télécharger.
Parce que c'est facile.
C'est extrêmement simple à mettre en place, c'est extrêmement rentable et lucratif pour les gens qui le font.
D'accord, donc il faut se méfier. Comment on se méfie ? Comment on fait pour s'en protéger ?
Alors, pour s'en protéger, il y a plusieurs techniques. La première, c'est toujours de voir l'organisme qui vous a envoyé le mail ou la personne qui vous a envoyé le mail. d'aller directement sur le site internet de l'organisme, ne jamais faire confiance aux mails que vous recevez. Ça, c'est un principe de base.
Ouais. Vous donnez des conseils dans votre livre, on va y revenir dans un instant. Allons sur un sujet évidemment beaucoup plus sérieux aussi, parce que c'est un des sujets, j'allais dire, de notre époque, malheureusement, la pédophilie. Vous avez un logiciel permettant de suivre tous les téléchargements de contenu pédocriminel, mais vous n'interpellez que les gros clients, au-delà de 200 vidéos téléchargées par mois. Il y aurait des dizaines de milliers de pédophiles téléchargeant des fichiers.
On ne peut pas qualifier les gens systématiquement de pédophiles à partir du moment où ils téléchargent. On les qualifie de pédophiles à partir du moment où c'est récurrent et que ça représente une quantité importante. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si les gens deviennent addicts à ces vidéos. Pas si vous faites un téléchargement, ça peut être une erreur, ça peut être des mauvaises manipulations. Donc, on fait d'abord une enquête pour vérifier que les téléchargements sont effectifs et que les gens deviennent un petit peu accros à ce genre de vidéos.
Donc là, l'enquête, pour vous, à ce moment-là, elle se déroule uniquement sur le web?
À ce niveau-là, oui, sur les systèmes de surveillance, sur les nœuds, on vérifie les adresses IP, on vérifie les téléchargements, les fichiers, la quantité, le type de fichier. Et en fonction de la quantité du type de fichier, à ce moment-là, on intervient.
Les prédateurs, ils sont plus fréquents sur le web que dans nos rues?
Oui.
Véritablement.
Oui, véritablement.
C'est pas une vue de l'esprit.
Non, c'est pas une vue de l'esprit parce qu'ils se sentent protégés par l'anonymat du web. À partir du moment où vous êtes derrière un écran, vous pensez que vous êtes invisible. Certains utilisent des VPN, des proxys pour se protéger. Et nos logiciels, heureusement, arrivent à remonter ces adresses.
Ah, heureusement. Parce que justement, comme vous dites, ils sont protégés par la toile, ils sont protégés parce qu'ils sont derrière un écran. Vous avez un peu le sentiment, parfois, peut-être, de passer à côté?
Non.
Non, non, non. C'est-à-dire?
On arrive, dès qu'on arrive à cerner un profil et qu'il devient intéressant pour nous, on arrive systématiquement à remonter jusqu'à lui.
Systématiquement.
Alors, systématiquement. Il y a des profils qui n'apparaissent jamais dans nos viseurs parce qu'ils n'utilisent pas le web comme tout le monde. Ils n'utilisent que des réseaux vraiment dédiés qui sont hors de nos radars. Mais ceux-là, ils tombent quand même sous le coup de la loi et ils sont quand même interpellés parce que nous avons des enquêteurs qui sont spécialisés dans les interceptions qui sont passées pour des crimes, enfin, des pédophiles ou des petites filles ou des choses comme ça, sur leur forum et qui permettent en fait de traquer ces gars-là alors qu'ils ne sont pas sur les web classiques, là où nous, on travaille.
Dans votre livre, vous retracez, je le disais en préambule, à la fois les faux profils profitant de la faiblesse des personnes crédules, les chantages aux photos osés, c'est beaucoup aussi ce qu'on entend, les piratages de données personnelles, les grosses bases de données comme celle d'université, terrorisme, etc. Comment on se protège aujourd'hui d'une cyberattaque, le tout à chacun?
Le tout un chacun, c'est déjà une question de bon sens au départ. On fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on regarde, à ce qu'on visionne sur les réseaux. Et une fois qu'on a déjà un minimum de bon sens, on essaye de voir ce qui nous paraît le plus évident. C'est-à-dire, si je vois une offre qui me paraît trop alléchante, il y a de fortes chances qu'elle soit fausse. Si on me propose des activités ou des rencontres avec des personnes un peu hors normes, il y a des chances que ce soit complètement faux. Donc il faut toujours garder cet esprit que les choses qu'on voit ne sont pas obligatoirement réelles.
Cybercrime aux éditions Albin Michel, Pierre Penelba, on se reparle dans une minute.
Merci.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe. On parle cybercriminalité sur Europe 1. C'est votre grand journal du soir avec votre invité Nathalie Lévy. Vous recevez Pierre Penelba. Il est auteur du livre Cybercrime.
Un flic 2.0 raconte. C'est chez Albin Michel depuis quelques jours. Et Juliette a une question à vous poser. Bonsoir Juliette. Bonsoir Juliette.
Bonsoir.
Allez-y, vous en prie.
Alors, auriez-vous des conseils pratiques afin que nos coordonnées bancaires ne soient pas récupérées à mauvais escient quand on commande en ligne?
Eh oui, Juliette, elle a 28 ans, elle commande en ligne comme beaucoup de gens de moins de 30 ans, voire plus. Hein, d'ailleurs, on n'est pas limité. Mais oui, on commande tous en ligne, c'est vrai, Juliette.
Alors malheureusement, il n'y a pas de système absolu pour protéger ses coordonnées bancaires. La meilleure chose à faire, c'est de contrôler ses comptes bancaires régulièrement. Maintenant, on ne peut pas donner une astuce particulière. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un compte spécifique pour faire ses achats en ligne qui n'est alimenté qu'avec les sommes qu'on va dépenser pour éviter justement que ce compte soit débité de façon trop importante.
Donc, c'est pas pratique, remarquez. Hein.
C'est pas très pratique, mais c'est la meilleure solution pour être protégé à ce niveau-là. Ou alors utiliser un service de paiement en ligne qui est lié à une carte bancaire qui va être débitée au fur et à mesure. Mais c'est toujours difficile. Il n'y a pas de sécurité absolue dans ce domaine-là.
Et ça, c'est fréquent aussi, les arnaques aux coordonnées bancaires comme ça, avec les achats en tout cas, comme le dit Juliette.
Alors, ce qui est fréquent, c'est surtout les vols de bases de données dans les sites internet. Donc, vous allez payer sur un vrai site classique, mais ce site va lui-même être piraté. Et donc, ils vont récupérer vos coordonnées bancaires. Donc, à partir de là, vous avez été au bon endroit, vous avez fait les bonnes choses, vous avez fait ce qu'il fallait, mais les coordonnées bancaires ont été volées. Donc là, vous allez avoir des débits réguliers.
Et là, Pierre Fenalba, quels sont nos recours ?
Le seul recours, c'est de faire un recours auprès de votre banque et un dépôt de plainte. Il n'y a pas d'autre choix à ce niveau-là.
Mais on est entendu ?
Pardon ?
On est entendu ?
Oui, oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait.
Pierre Fenalba, évidemment, les réseaux sociaux, on en parle et vous en parlez dans votre livre Cybercrime Inflict 2.0. Dès les premières pages d'ailleurs, hein, la fermeture des comptes Facebook, c'est d'une complication absolue pour vous. Vous citez le premier amendement qui protège la liberté d'expression aux États-Unis. Vous en appelez au pouvoir public aujourd'hui parce qu'il faut bouger le droit sur la législation des réseaux sociaux, pas demain, mais hier, si j'ose dire.
Oui, enfin, la difficulté, c'est que ces entités, elles sont supranationales.
Ah oui.
Elles réagissent selon des lois qui sont dans les lois aux États-Unis. En France, on a un système législatif extrêmement bien protégé. Quand on demande, on fait une réquisition auprès d'une instance européenne ou française, on a la réponse. Quand on fait la même réquisition auprès d'une instance aux États-Unis ou dans un autre pays, ouais, on n'a pas de réponse. Ou alors, c'est au bon vouloir de l'État. Donc ça, c'est vraiment frustrant pour nous.
Donc là, vous criez dans le désert ? En quelque sorte.
On a des réponses, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des réponses au niveau européen, national. On a beaucoup d'aide de la part d'Europol, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau international.
Et vous pensez que c'est possible ? Vous pensez que c'est pour demain ?
Je l'espère.
Dans votre livre, vous parlez de phishing. Ça se prononce bien comme ça ?
Oui.
Je crois que la traduction, c'est hameçonnage.
Oui.
Hameçonnage, voilà. Qui pullule donc dans les boîtes mail, là encore. Qu'est-ce que c'est exactement pour qu'on comprenne bien ?
Le phishing, c'est un mail que vous recevez, que vous n'avez pas sollicité et qui contient soit un lien, soit un fichier.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Donc le lien va avoir pour but de vous conduire vers un formulaire qu'on va vous demander de remplir. Alors il y a toujours une très bonne explication à ce lien, à ce fichier. Mmh. Le principe, c'est de vous dire, bon, vous allez recevoir un remboursement ou alors vous devez de l'argent, vos comptes vont être fermés. Il y a toujours une très bonne explication. Et avant, on disait, c'est facile à détecter, c'est mal écrit, c'est mal rempli, il y a des fautes d'orthographe. Mais ils sont en train de se professionnaliser et ce que vous recevez actuellement, c'est des mails qui sont quasiment parfaits. Et quand vous arrivez sur la page après le lien, vous tombez sur une page qui ressemble parfaitement à la page de l'établissement. On a actuellement une campagne qui est sur les impôts. Quand vous cliquez sur le lien, vous tombez sur une page qui ressemble vraiment à la page des impôts. Donc ça peut troubler les gens et ça peut leur permettre à eux de récupérer énormément d'argent. Parce que c'est des campagnes qui sont faciles à mettre en place et qui rapportent vraiment beaucoup d'argent.
Mais oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc être vigilant finalement, hein, c'est une question de bon sens. La carte vitale, elle a fait la une du Parisien, entre autres, hein, l'arnaque à la carte vitale récemment. Ça, c'est du même acabit que ce que vous nous racontez ?
C'est un peu différent. C'est des arnaques qui sont un peu plus élaborées avec un vol de carte vitale. C'est un peu différent. Nous, on est plus sur les arnaques liées à tout ce qui est autour du web.
Évidemment, on parlait de pédophilie tout à l'heure. Vous êtes très impliqué. Le quotidien d'un policier, ça veut dire aussi voir des images terribles de pédophilie sur Internet. Des images évidemment très intimes, choquantes, souvent. Vous voyez les pires choses qui soient. Comment vous faites ?
Oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est confronté à l'horreur dans toute sa profondeur.
Et lié souvent aux enfants.
Est lié souvent aux enfants. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on en voit beaucoup de plus en plus jeunes qui sont martyrisés. Et il y a une dépravation qui, moi, en tant que vieux policier, je suis quand même rompu à ces horreurs. Même moi, j'arrive à en être choqué dans certaines
affaires.
Comment
on se protège alors ?
En tant que policier, c'est difficile. Et en tant que particulier, moi, je conseille systématiquement aux parents de dialoguer avec leurs enfants et de ne pas les laisser seuls devant un écran. Il ne faut pas laisser les enfants, même les adolescents, seuls. Il faut communiquer, il faut dialoguer. C'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre, c'est que chacun doit pouvoir imaginer ce qui peut se passer sur le net et se dire, tiens, ça pourrait arriver à mon enfant.
C'est important ce que vous dites.
Essayer de dialoguer, de réagir avec eux, de communiquer.
On ne les met jamais assez en garde, nos enfants. Vous le dites dans votre livre, hein, un téléphone, c'est un accès à Internet direct et à tous les contenus, à toutes nos vies, à toute leur vie.
Mais oui, mais vous faites une recherche en tant qu'adulte, hein, faites une recherche avec des mots simples sur le net, vous allez voir avec un téléphone ou avec un ordinateur sur quoi vous allez tomber. Et les enfants sont tout à fait capables de faire la même recherche. Un enfant de 10 ans qui a un téléphone qui est avec un accès Internet va avoir accès à tous les sites porno du monde.
Mais vous savez que c'est inévitable aujourd'hui, un enfant a un téléphone. Qu'est-ce qu'on dit alors aux parents ? De vérifier
alors,
tout le temps ?
Alors, le contrôle parental doit être activé au maximum et le dialogue doit être fait. Et il y a une vérification qui doit être faite de la part des parents. Pour moi, c'est indispensable.
Un dernier mot, en quelques secondes. On en est où, la France, au regard dans la lutte contre la cybercriminalité ? On est à la bourre ? On est en retard, oui ou non ?
On est pas mal. On est pas
ah,
mal
est pas
du
mal.
Tout.
D'accord.
On est pas mal du tout parce que l'OCLIT et les services de l'OCLIT, de la PJ et les gendarmes, on a développé beaucoup d'équipes et on travaille très bien et en très bonne synergie.
Merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair et très concret. Merci beaucoup, Pierre Penalba. Cybercrime, c'est aux éditions Albin Michel. Merci à vous.
Merci à vous. Europe
1. À suivre, Nathalie Lévy, juste avant 20h.
Un peu de musique, dans quelques secondes. Et puis ensuite, on file à l'Alpe d'Huez avec Mathieu Charrier. Il a de la chance, lui.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. Et c'est tous les jours avec Nathalie Lévy sur Europe 1. Dans un instant sur Europe 1, place à la culture, juste avant 20h, on va parler cinéma, mais avant cela, c'est l'heure de la playlist du 18-20. Qu'est-ce qu'on s'écoute ce soir, Nathalie Lévy ?
Un extrait du premier album d'une des révélations de la scène française. On ne connaît qu'elle, Clara Luciani. Ça s'appelle Nu. Qu'est-ce qu'ils aiment hein, de l'autre côté de la vie.
Ah, Franck Régis
adore.
Hein.
Extrait de Sainte-Victoire, Clara Luciani est nommée dans la catégorie artiste féminine et chanson originale de l'année. Rien que ça, lors des prochaines victoires de la musique, ce sera le 14 février.
Les prochains titres à découvrir dans la playlist du 18-20, ça sera bien sûr demain. À la même heure, on continue de parler culture, Nathalie Lévy, et direction les salles obscures.
On est mardi soir, Mathieu Charrier s'est installé dans ce studio. On parle cinéma ensemble. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous.
Alors on commence avec votre coup de cœur de ce début d'année, c'est 1917, signé Sam Mendes.
Et je vous vois arriver, vous allez me dire encore un film de guerre et patati, mais je vous répondrai oui, mais celui-là il est exceptionnel, parce qu'il est en un seul plan séquence, c'est-à-dire sans aucune coupe de montage visible à l'écran. Je vous donne l'histoire d'abord en quelques mots. Deux jeunes soldats britanniques, on est en 1917, ils sont chargés de franchir les lignes ennemies, sans se faire repérer évidemment, pour aller porter une consigne à un autre groupe de soldats, stopper un mouvement de troupes et ainsi sauver des centaines de vies.
Vous avez un frère au 2e bataillon.
Oui, mon général. Est-ce que...
Il est en vie. Et avec votre aide, il a une chance de le rester. Ils vont tomber dans un guet-apens. Votre mission est de porter un message annulant l'assaut prévu demain matin. À défaut, nous perdrons 1600 hommes, dont votre frère.
Et c'est parti pour deux heures de véritable immersion avec ces soldats au milieu de la boue, des rats, sous les bombes, sous les tirs ennemis. Et en continu, donc je le répète, sans aucune coupe visible à l'écran. Ce qui a posé évidemment beaucoup de problèmes à Sam Mendes, le réalisateur, qui s'est inspiré d'ailleurs pour écrire l'histoire de son grand-père.
Ce sont plusieurs très longues prises reliées les unes aux autres. Ce que je voulais, c'est surtout qu'on ait l'impression qu'il n'y ait pas de montage. Comme ça, on a la sensation d'être coincé avec les personnages. Je n'avais aucun échappatoire, je ne pouvais rien couper au montage. Je ne pouvais pas couper une réplique, je ne pouvais pas modifier l'allure, le tempo d'une scène. Ça ne se passe pas comme ça dans un film traditionnel. On peut toujours contrôler le rythme du film au montage.
C'est une prouesse donc.
Ah, c'est une prouesse, c'est une vraie expérience de cinéma que nous propose Sam Mendes. C'est une tension incroyable, une lumière incroyable, une mise en scène incroyable. Vous savez, il avait été oscarisé Sam Mendes dès son premier film, American Beauty. Il a cartonné avec ses deux James Bond, Skyfall, Spectre. Et là encore, il s'inscrit dans l'histoire du cinéma. 1917, foncez-y, faites-moi confiance, c'est un film que nous sommes fiers de soutenir ici à Europe 1. Et j'en profite, Ipipi Poura, pour vous dire que demain matin, on va lancer un podcast qui s'appelle Plan Séquence, consacré justement à Sam Mendes et que je vous encourage à aller écouter. On dissèquera tout son travail.
Donc Sam Mendes qui réinvite le film de guerre et ça fonctionne parce qu'il est reparti déjà avec deux Golden Globes.
Les Oscars veulent de lui, enfin voilà. Bon, c'est parti. Voilà.
Donc il faut y aller impérativement, vous me l'avez soufflé. on passe maintenant aux deux comédies françaises de la semaine, une belle équipe et Selfie. D'abord Mathieu, une belle équipe portée notamment par Cadmeyrat, qu'on aime beaucoup.
On l'aime beaucoup, c'est le coach d'une petite équipe amateur de foot dans un village, ça s'appelle Clourière. Problème, ces messieurs se tapent dessus un dimanche, ils sont tous suspendus. Or, s'ils ne jouent pas les derniers matchs, eh ben, l'équipe fermera. Cadmeyrat, il a une idée, il se dit « bouge pas ». Eux, ils sont suspendus, mais pas leurs femmes. Donc, il prend toutes les femmes, il les met derrière le ballon. Évidemment, ça déstabilise tout l'équilibre du village, parce que pendant ce temps-là, ces messieurs, il va falloir s'occuper des devoirs, des tâches ménagères, etc., etc. Céline Salette joue l'une de ces femmes, écoutez-la, aux côtés de Cadmeyrat.
T'es un peu contente de courir et d'aller embêter les garçons sur leur terrain.
Oui, ça allait même plus loin, parce que dans les scènes qui sont écrites, elles sont censées perdre à chaque fois. Et ben, demander à ces filles-là de perdre, c'est impossible. Donc il y a parfois des scènes où on leur disait « Non, on va pas marquer, non, on va pas marquer !» Mais elles sont complètement... C'est des compétitrices, vous voyez, c'est dans l'âme, c'est rien, un truc. Le ballon, il fallait... ça les faisait chier de perdre, en fait. Ils n'aiment pas perdre, c'est normal.
On avait la hargne, c'est vrai, on avait la hargne. On était trop heureuses d'affronter des hommes, au fond. En fait, en vrai, ça devrait exister, je pense. Bien sûr, il y a le championnat féminin, le championnat masculin, mais je pense qu'on aurait des surprises.
Le football mixte va exister.
C'est voilà. Ça, faut que ça tourne.
Faut que ça tourne. À la réalisation, vous savez, c'est Mohamed Hamidi qui avait fait La Vache, notamment avec Jamel, ou Jusqu'ici tout va bien avec Gilles Lelouch. Donc voilà, il fait des comédies sociétales, c'est très sympa. Et puis je vous signale aussi d'un mot, Selfie. Alors là, c'est un film à quatre sketchs qui moque à quel point la technologie a envahi nos vies. Il y a par exemple un sketch dans lequel Blanche Gardin est mère d'un petit garçon atteint d'une grave maladie. La famille, vous savez, commence à faire des petites vidéos sur Internet. Est-ce qu'on fit, ça cartonne, ils ont plus de 2 millions de followers. Lorsqu'un jour, le médecin leur apprend que magie, c'est un miracle, le garçon est guéri. Évidemment, ils sont un peu embêtés dans le fond. Qu'ils vont perdre toute leur nouvelle.
Il n'y a plus moyen de communiquer.
Exactement, voilà. C'est sympa. Ça s'appelle donc Selfie.
Ouais, c'est une critique acerbe de nos vies.
Exactement.
Hein. Avec Elsa Zilberstein, dont vous nous reparlez, Mathieu Charrier.
Exactement. Elle a deux films dans un autre qui s'appelle Je ne rêve que de vous. Alors, ça raconte l'histoire vraie de Jeanne Reichenbach. On est en 1940. Ah. Elle avait une vie de bourgeoise tout tracée qui lui permettait d'éviter l'horreur de la guerre. Elle devait partir pour les États-Unis. Sauf que cette femme. C'est inspiré d'une histoire vraie, hein, va tomber amoureuse de Léon Blum et tout sacrifier pour lui, sa famille, sa liberté aussi. Écoutez Elsa Zilberstein.
La guerre éclate. Pour se protéger, les Juifs, toute la famille part en Amérique. Elle quitte son mari, elle laisse partir ses enfants, elle lâche tout le monde et elle décide de suivre l'homme qu'elle aime depuis qu'elle a 16 ans. Quelle héroïne, quelle fougue, quel amour. C'est vrai que c'est un portrait d'une héroïne... Je dirais, ok, ça se passe dans les années 40, mais c'est une héroïne très moderne, très libre, très... qui donne envie de vivre, qui ose tout, qui va vers son destin et vers l'homme qu'elle aime, et c'est beau à voir.
Voilà, on parle avec passion de ce film, même si je dois avouer que parfois le film se traîne un petit peu, mais rien que pour découvrir ce personnage qui a fait l'histoire, ça vaut le coup d'aller voir Je ne rêve que de vous. Et puis d'un mot, parce que je sais que vous adorez les loups.
Ah bah, bien sûr.
Ah, voilà, on ne l'avait pas préparé, je ne savais
non,
pas.
Non, mais
fait,
c'est vrai que c'est tout à fait mon truc, ça se voit, non?
Donc, il y a un documentaire signé Jean-Michel Bertrand qui s'appelle Marche avec les loups. Il avait réalisé La Vallée des loups il y a 2 ans, 200 000 entrées, et il poursuit son travail pour essayer de comprendre comment les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. On est véritablement avec lui, sous la tente, sur les skis, sur la montagne, grâce notamment à de très belles images de drones. Il filme aussi en infrarouge pour les distinguer la nuit, et c'est franchement passionnant avec cette question: pourquoi le loup effraie l'homme, et surtout pourquoi l'homme veut-il le supprimer? Ça s'appelle donc Marche avec les loups.
Et donc ça, c'est un documentaire.
Exactement.
C'est l'année un peu Elsa Zilberstein.
Ah ben non, mais Elsa Zilberstein, on la voit dans pas mal de films chaque année, et c'est une actrice qui a une palette de jeux assez incroyable.
Bon, merci beaucoup
avec
Mathieu
plaisir.
Charrier. Le mardi, c'est cinéma, et c'est avec vous.
Europe 1.
Et on est ensemble chaque soir. On vous remercie pour votre fidélité, n'est-ce pas Anissa?
Oui, vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup.
De 18h à 20h, l'information évidemment et la musique, c'est vous, Émilie, qui prenez la suite avec le programme.
Salut Nathalie, bah oui, ce soir, musique culte. Alors je sais pas si vous aimez vraiment les loups, mais est-ce que vous aimez les dauphins?
J'ai une petite préférence.
Ça sent de la bande originale de film là. Oh là là.
Eric Serra.
Eric Serra est notre invité.
Oh la classe.
Il a signé la BO du Grand Bleu, vous le savez. Il en a vendu des millions aussi, vous le savez. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il part en tournée, Eric Serra, avec la musique du Grand Bleu. Il organise des ciné-concerts partout en France au mois de mars. Le film projeté sur grand écran et lui devant avec ses musiciens. Et il joue à la note
près
la musique du film en direct. C'est magnifique et il va venir nous en parler.
Et ça, c'est des moments où le temps s'arrête.
Ah,
c'est magnifique. Merci beaucoup, Émilie
Mazoyer. Écoutez et regardez ce soir.
Voilà, on a la tonalité, on adore, on valide et on vous dit à demain. Enfin non, à tout à l'heure. Nous, on se dit à demain. N'est-ce pas, Anissa?
À
demain, 18h, 20h, ensemble pour l'info et l'humeur et surtout pour écouter ensemble le monde changé.
Et c'était Nathalie Lévy sur Europe 1. Bonne soirée.